Bien, chers auditeurs, c'est Olivier Tournafond qui vous parle. Et le thème que nous avons choisi aujourd'hui est un thème très actuel, mais qui est un peu plus éloigné que les thèmes politiques que nous avons abordés jusqu'alors. Nous allons parler des énergies. Alors la question des énergies est une question qui touche évidemment aux droits et bien entendu aussi aux libertés, parce que l'énergie permet d'exercer nos libertés. Sans électricité, sans pétrole, nous serions cloués au sol et nous pourrions même plus nous chauffer. Donc c'est une question qui est importante. Je vais être entouré de spécialistes. Alors j'ai déjà dans le studio Pascal Renardet, qui est ingénieur des mines, qui a fait une carrière importante chez Total et qui a publié d'ailleurs un ouvrage sur la politique énergétique de la France. Il y a également le prince de Bourbon-Parme, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, que vous connaissez tous. J'attends mon assistante Caroline Nguyen et j'attends aussi un autre invité prestigieux, Bernard Combi, qui est polytechnicien, ingénieur atomiste, et qui est un spécialiste de l'énergie nucléaire, puisqu'il préside l'association des écologistes pour le nucléaire. J'ai été amené à le rencontrer, mis sur sa trace en quelque sorte, par un article excellent publié sur le site Metamag, que je recommande d'ailleurs à tous les auditeurs de cette radio, Metamag, le magazine de l'esprit critique. Et j'aimais bien les articles de Michel Gay, qui est lui aussi ingénieur atomiste, qui remet un certain nombre de choses en place et qui chasse les mythes du monde moderne, notamment en ce qui concerne les énergies dites alternatives, le nucléaire. Et Michel Gay, que je voulais faire intervenir, ne pouvait malheureusement pas, mais il m'a donné donc le numéro de téléphone de Bernard Combi, qui est le président de son association des écologistes pour le nucléaire. Alors j'aurais bien voulu aussi faire venir des détracteurs du nucléaire, mais bizarrement ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur Radio Courtoisie en m'expliquant que c'était une radio de fascistes et de disciples du docteur Folamour et qu'ils ne voulaient pas se compromettre sur des ondes aussi malfaisantes. Donc ils ne viendront pas présenter leurs arguments, donc je pense que tant pis pour eux. Nous aurons au téléphone également des spécialistes que nous inviteront, mais ils sont loin, donc on va les contacter au téléphone. Il y aura Marie-Stella Duchiron, qui est un ingénieur de l'ENGREV, donc le génie rural des eaux et forêts, qui est docteur en sciences, et qui a étudié beaucoup ces dernières années le scandale des éoliennes, énergie prétendument renouvelable. Elle nous parlera de ce drame, parce qu'on peut parler aujourd'hui d'un véritable drame national. Il y a d'ailleurs un ouvrage d'Alban Darguin, publié aux éditions Synthèse, qui s'intitule « Les éoliennes, un scandale d'État ». Je vous invite à acheter cet ouvrage qui est tout récent, qui coûte la modique somme de 20 euros et qui explique comment on a fait croire aux gens que les éoliennes étaient un moyen d'avenir pour remplacer l'énergie nucléaire, ce qui est une imposture totale. Et non seulement les éoliennes vont s'avérer inutiles et nuisibles, mais elles produisent beaucoup de nuisances, notamment des nuisances sonores, des infrasons, des vibrations extrêmement mauvaises pour la santé, d'autant plus que, comme on le dira, leur distance d'implantation par rapport aux habitations en France n'est que de 500 mètres, alors que dans beaucoup d'autres pays, dans la plupart des pays civilisés, pourrait-on dire, on a une distance minimum qui est de 1200, 1500 mètres, voire 2000 mètres, notamment dans certains États américains, parce qu'il faut tenir compte justement du risque de nuisance sonore liée aux infrasons pour les hommes et également pour les animaux, pour le bétail notamment. Bon, la prolifération des éoliennes est un véritable souci qui nous menace tous, sachant que ces éoliennes peuvent être implantées, pour ceux qui vivent à la campagne, du jour au lendemain, en face de chez eux. Alors évidemment, ceux qui habitent à Paris sont moins menacés. Ça m'étonnerait qu'on installe des éoliennes sur l'Arc de Triomphe ou avenue des Champs-Élysées, quoique on ne sait jamais avec Madame Hidalgo. Toutes les idées peuvent arriver, hein, mais bon, ça paraît peu vraisemblable. Mais pour ceux qui habitent à la campagne, plus personne n'est à l'abri. Donc nous verrons avec Madame Duchiron cette question extrêmement grave, et nous ferons également intervenir au par téléphone un autre spécialiste de l'énergie nucléaire qui s'appelle Claude Brasseur, non pas du tout l'acteur, mais le mathématicien, qui nous parlera du thorium liquide, qui est un combustible de substitution de l'uranium, beaucoup moins dangereux. C'est le sodium liquide qui peut servir de combustible. Nous verrons donc avec lui quelles sont les voies que l'on peut explorer. Alors, la question de l'énergie est une question extrêmement complexe, et je vous avouerai qu'avant de choisir ce thème, j'étais perplexe. Parce que d'abord, je n'y connais absolument rien, je suis comme tout un chacun, j'aurais tendance à croire plutôt à ce qu'on me dit dans les journaux, même si maintenant je me méfie beaucoup, et mon esprit critique est toujours en veille, mais bon, comme tout le monde, j'ai tendance à penser que le nucléaire est très efficace, mais pas très rassurant. C'est vrai que j'adorerais pas avoir une centrale atomique à côté de chez moi. J'ai toujours dans la tête les images de Tchernobyl, de Fukushima. Le nucléaire me paraît quand même très utile. Il représente d'ailleurs une très grande partie de notre production d'électricité. J'avais naïvement plutôt une bonne opinion des énergies dites renouvelables. Alors, les énergies renouvelables, c'est bien sûr l'hydroélectrique. Alors ça, c'est aucun problème, ça existe depuis très longtemps. Sans inconvénient majeur. Il y a aussi les éoliennes, mais je pensais pas que les éoliennes allaient déboucher à ce qu'on est en train de voir en France, c'est-à-dire une dévastation des paysages et de la santé publique. Et puis les panneaux solaires, très bien, mais les panneaux solaires, je me suis rendu compte que le coût du recyclage était monstrueusement cher. Et les autres énergies, on les connaît tous, ce sont les énergies dites fossiles, pétrole, charbon, gaz de schiste, schiste bitumineux. Alors elles sont pratiques comme tout, mais sauf qu'elles s'épuiseront un jour et que l'on ne peut pas trop conduire, et puis elles sont polluantes aussi. Donc tout ça est très très compliqué. Alors la question de l'énergie est une question qui est très complexe et dans laquelle il est très difficile de se faire une opinion par soi-même si on n'a pas étudié la question sans a priori, de façon objective, sans préjugés, parce que elle fait appel, cette question, à des connaissances techniques et scientifiques de très haut niveau que la majorité d'entre nous n'ont pas, sauf des gens comme Pascal Renardet qui est à mes côtés, qui lui est un scientifique de très haut niveau, comme aussi Bernard Combi qui va venir, qui lui connaît cela. Mais nous sommes tributaires de ce que veulent bien nous dire les médias, les hommes politiques. Donc nous sommes évidemment crédules. Bon, c'est d'ailleurs un des drames du monde moderne, c'est que la science et la technique perfectionnées au plus haut point, comme on le voit au 21e siècle, sont de nouvelles sources d'ignorance. Moi, je le constate quotidiennement avec mes étudiants à la faculté. Dans les années 70, les étudiants savaient chercher et savaient réfléchir. Bon, parce qu'ils avaient quand même une certaine culture générale et ils avaient une certaine capacité à faire fonctionner leurs cellules grises. Aujourd'hui, les étudiants ne savent plus ni chercher ni réfléchir. Ils s'en remettent à Internet, à Wikipédia, à leur iPhone, qui est devenu une sorte de prothèse intellectuelle. Donc ils ont oublié de réfléchir, et dans le monde moderne, hyper spécialisé est une nouvelle source d'ignorance de masse. Et moi j'ai la conviction d'ailleurs qu'un homme d'il y a un siècle, un homme de 1917, était très probablement plus perspicace, avait plus d'esprit critique qu'un homme de 2017, parce que il pouvait porter un jugement personnel sur le monde qui l'entourait. Même s'il se trompait, il savait comment fonctionnait une machine à vapeur, une automobile, un balai, un aspirateur, ça commençait à exister, même une machine à laver. Je parle pas de télévision, ça n'existait pas, mais même un poste de radio, une TSF, on pouvait, dans une classe aisée et intellectuelle, connaître le fonctionnement de tous les objets qui nous entouraient, un gramophone par exemple, un appareil de photographie. Un homme de qualité d'il y a un siècle pouvait expliquer à ses enfants le fonctionnement de tout ce qui l'entourait et pouvait porter un jugement personnel. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas expliquer le fonctionnement d'une télécommande. Nous ne pouvons pas expliquer le fonctionnement d'un simple téléviseur. On sait vaguement qu'il y a des électrons qui partent d'un électroaimant et qui viennent percuter le fond du tube qui représente le tube cathodique. Mais on est incapable, dès que l'électronique est intervenu, on n'a plus été en mesure de porter un regard critique sur les choses, parce que l'électronique, c'est déjà quelque chose de très difficile, et je ne parle pas de l'informatique. Alors, qui peut se targuer de bien comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'un iPhone, d'une simple calculatrice électronique? C'est devenu quasi impossible, et nous sommes donc crédules. Alors, autre danger du thème de l'énergie, c'est que c'est un thème qui est très sentimental, parce que tout le monde a des préjugés, des a priori. Je vous parlais de l'énergie nucléaire, tout le monde a peur du nucléaire, parce qu'on pense à la bombe atomique, on pense aux catastrophes nucléaires, on sait que c'est une force énergétique colossale qui risque de nous éclater à la figure, même si en réalité le danger est, je crois, plus théorique que réel, parce qu'en réalité à Tchernobyl, il n'y a pas eu 40 000 morts comme on l'a complaisamment dit, il y a eu quelques centaines ou quelques milliers de morts seulement. Il y a eu... Oui, on a énormément exagéré le nombre de victimes, mais c'est une énergie qui fait terriblement peur. Donc il y a un facteur sentimental très important qui fait que beaucoup de gens auront une vision purement émotionnelle. Alors je vous donne raconte une petite anecdote, parce que j'attends toujours Bernard Combi, et je vais bien sûr laisser la parole à Pascal Renardet, mais en attendant une petite anecdote de la réaction du populaire. Je me déplace dans le sud de la France, à Bayonne, avec une trottinette électrique, et une brave dame qui tient un stand pour vendre des bijoux artisanaux me dit: ah, c'est bien votre machin, ça marche comment? Je dis: c'est électrique. Oh, c'est formidable, ça ne pollue pas, vous êtes écologiste. Elle me dit: et le courant? Bah, le courant, il vient de la prise de courant, comme son nom l'indique. Et alors, comment est-ce qu'il est fabriqué? Ah, il est fabriqué par des centrales atomiques. Oh là là, elle change de tête, mais c'est très mal, c'est horrible ce que vous me dites là. Alors là, vous êtes un criminel de rouler avec cette chose-là. Bah, je dirais, bah, il vaut mieux alors à ce moment-là aller à pied. Ah oui, ça c'est bien, à pied ou à cheval, ça c'est moral. Mais si vous me dites que votre trottinette, vous l'alimentez avec l'énergie qui vient d'une centrale atomique, là c'est mal. C'est très mal. Bon, alors je dis: oui, mais vous, quand vous branchez votre machine à laver, ça vient aussi d'une centrale atomique. Alors elle dit: ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, vous voyez, on peut pas s'en passer. Mais elle dit: oui, mais il faut arrêter ça tout de suite. Ben, je dis: oui, mais que faire alors? Qu'est-ce que vous préconisez? On prend du charbon ou on prend du pétrole? Ah non, ça c'est très mal aussi, c'est très très mal. Bon, ben, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il vaudrait mieux plus consommer du tout. Bon, alors voilà. Alors là, on en arrive au facteur idéologique. Il y a un certain nombre de gens qui d'ailleurs passent leur temps à se dire progressistes, et qui ont en fait terriblement peur du véritable progrès, parce que ça les dépasse totalement. Un peu, vous avez l'idée du retour au bon sauvage. On va vivre, c'est comme les hippies, on va vivre d'amour et d'eau fraîche sur une île déserte, on va se nourrir de fruits, on va vivre comme voilà, sans conflit, sans la civilisation technicienne, sans la civilisation scientifique. On va retourner aux sources, et beaucoup de gens, en réalité, d'ailleurs derrière le concept de décroissance, rêvent d'un monde où on retournerait en arrière. Simplement, ils ne mesurent absolument pas ce que cela signifierait pour eux, mais on retrouve beaucoup cette volonté de régression, finalement, n'ayons pas peur de mots, c'est une sorte de volonté de régression chez beaucoup d'écologistes de gauche, à la mairie de Paris, quand par exemple Madame Hidalgo nous dit: on va fermer les Champs-Élysées, la rue de Rivoli, on va transformer le boulevard périphérique en jardin suspendu, et on n'a plus besoin de tous ces gens qui roulent dans tous les sens, qui travaillent, à quoi ça sert, qui polluent, on va simplement se promener à l'air libre, de préférence dans le plus simple appareil, puisqu'elle veut aussi créer, je crois, des centres naturistes dans Paris. Alors bon, vous me direz que vu le climat parisien, ils seront pas ouverts toute l'année, hein, et ça marchera que quelques mois d'été. Et c'est une vision qui est totalement rétrograde au fond, parce que c'est pas du tout ça le progrès. Ça n'est absolument pas ça. Alors voilà pour dire que c'est un thème extrêmement compliqué. Bien, alors il y a déjà des questions qui arrivent, qui affluent. Après, j'ai à peine ouvert la bouche que tout de suite. Alors il y a un auditeur qui a tout à fait raison et qui dit: ne pas oublier que les éoliennes tuent des millions d'oiseaux chaque année. Bah oui, on va en reparler tout à l'heure. Il y a un autre auditeur qui anticipe sur mon journal et qui nous parle, une idée que je parlerai de la loi de transition énergétique, oui, qui est d'obédience marxiste, ben oui. Les élucubrations et plans sur la comète de Monsieur Hulot, ben c'est une catastrophe, oui. Mais on sait très bien que Monsieur Hulot est un ayatollah de l'écologie. Et ce sont des gens d'ailleurs pourtant qui ont un certain niveau scientifique. Mais ils ont des a priori. Alors, Pascal Renardec, vous qui êtes arrivé avec nous, vous allez peut-être, en attendant que nos invités arrivent et que mon assistante arrive, pouvez-vous peut-être dresser un petit panorama pour nos auditeurs des différentes sources d'énergie et de la politique énergétique que nous avons suivie jusqu'alors. Je crois que ce serait utile, voilà, pour que les gens sachent exactement de quoi nous parlons.
Je vous remercie, professeur. Donc, je vais, comme introduction à cette utilisation de l'énergie, je vais parler du bilan énergétique de la France qui est publié par le gouvernement chaque année. Alors, pour en première partie, je vais indiquer quelles sont les différentes formes d'énergie et dans quel domaine exact elles sont utilisées. Et puis après, en deuxième partie de cette introduction, je parlerai de la destination de cette énergie, en particulier la répartition de l'énergie qui est utilisée dans l'industrie, dans le résidentiel, etc. Donc je démarre par parler quelles sont les différentes formes d'énergie et quelles sont les différentes utilisations de ces énergies. Alors, les différentes formes d'énergie, il y a le charbon, le pétrole brut, le gaz naturel, l'uranium, l'hydraulique, le bois, le solaire et l'éolien. Donc je démarre par le premier, puisque c'est le premier qui a été utilisé historiquement, à part le bois, le charbon. Alors le charbon, il peut être utilisé dans quatre directions différentes. Il peut être utilisé comme chauffage individuel. Bon, actuellement c'est quasiment négatif, c'est quasiment nul. Et alors il peut être utilisé pour se transformer en coque qui va servir pour la sidérurgie. Et en appendice, quand on fabrique le coke, on fabrique également des gaz industriels qui constituent la carbochimie. Et puis, la principale utilisation du charbon actuellement, c'est l'utilisation dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité. Alors, cette électricité a un gros avantage, c'est que, à travers les centrales thermiques au charbon, on peut les produire. On peut démarrer les centrales et les fermer très rapidement. En revanche, le rendement est relativement faible, puisqu'il ne dépasse pas 50%. Pour ce qui concerne le pétrole brut également, il peut être utilisé dans des chauffages individuels et collectifs. Bon, ça existe, c'est encore en fonctionnement en ce moment. Bon, la deuxième utilisation du pétrole, c'est dans la raffinerie. Et à partir de cela, on peut faire de l'essence, du fuel, des goudrons et tous les produits pétrochimiques. Et puis enfin, principale utilisation, donc c'est le pétrole brut qui est utilisé dans des centrales thermiques pour fabriquer de l'électricité, toujours comme pour le charbon. Troisième forme d'énergie, le gaz naturel. Le gaz naturel, on va passer un petit peu là, on a les mêmes points, c'est-à-dire que ça peut servir comme chauffage individuel et collectif, ça peut servir comme gaz sous forme de butagaz en particulier pour donc le ménager, et puis le gaz naturel sert également pour les centrales thermiques pour fabriquer de l'électricité qui va sur le réseau comme toutes les autres électricités. Quatrième forme d'énergie, l'uranium. L'uranium, lui, est exclusivement utilisé dans les centrales nucléaires pour fabriquer de l'électricité. Et cette électricité qui est produite un peu moins rapidement, elle sert de production de base en continu, c'est-à-dire qu'une centrale nucléaire pouvant se fermer et s'ouvrir un peu avec un certain temps, on utilise le nucléaire comme production de base. Cinquième forme d'énergie, l'hydraulique. Alors l'hydraulique également passe dans des centrales pour fabriquer de l'électricité. Et l'avantage de l'hydraulique, c'est que l'instantanéité de la production et de l'arrêt est très élevée. C'est-à-dire qu'on peut mettre en route une centrale hydraulique en quelques minutes et le rendement est élevé, il y passe toujours 90%. Avant-dernière source, forme d'énergie, le bois. Alors le bois, c'est assez connu, ça sert, il y a deux usages principaux bien sûr, le chauffage individuel et la menuiserie. Et on ne comptera dans Tout à l'heure, quand je parlerai de chiffres, on ne parlera bien sûr que du bois qui sert pour le chauffage. Enfin, le solaire et l'éolien, ils servent uniquement à fabriquer de l'électricité. Alors, on l'a vu, c'est que le solaire et l'éolien ont un temps de fonctionnement excessivement faible dans la 24 heures, c'est entre 15 et 20, 25%. Donc, l'inconvénient du solaire et de l'éolien, c'est que à eux doit être adjoint une des solutions de rechange qui sont en général des centrales au pétrole ou au gaz naturel. Alors, on peut dire quelle est la place de chacune de ces formes d'énergie. Alors, la plus importante, c'est l'uranium. L'uranium représente 40% de la consommation d'énergie, ce qui est très important. La deuxième, actuellement, c'est le pétrole. Le pétrole représente encore 30% de la consommation d'énergie. La troisième, c'est le gaz naturel, 14%. Et puis, enfin, il y a toute une série de... L'hydraulique représente 5%, le bois 4%, le solaire et l'éolien 3% et le charbon 3%. Donc vous voyez, voit bien que c'est l'uranium qui représente la grande partie, 40%, et que le pétrole représente encore 30%, c'est-à-dire AE2 représente 70% de l'énergie qui est actuellement consommée. Maintenant que j'ai parlé des différentes formes d'énergie, il faut dire à quoi cela est destiné. Alors, je prends la classification de bilan énergétique du gouvernement français et qui publie donc chaque année où est utilisée cette énergie. Alors, l'utilisé le plus, c'est le résidentiel. Après, ça représente résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire les bureaux, l'habitation, etc. Le deuxième, c'est le transport, 19%. L'industrie, 9%. Le non-énergétique, 5%. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le non-énergétique? C'est le coq, vous avez vu, c'est la menuiserie, etc. Alors, vous avez la sidérurgie qui représente uniquement 2% et l'agriculture, 2%. Mais j'ai oublié le plus important. J'ai oublié, puisque si vous faites la somme de tout ce que je vous ai indiqué, ça représente que 63%. En fait, il y a l'élément le plus important, c'est l'autoconsommation. L'autoconsommation représente 37%.
Alors, peut-être faut-il définir pour nos auditeurs ce qu'est l'autoconsommation.
Alors,
ne pas comprendre.
Oui, alors l'autoconsommation, c'est par exemple la consommation d'énergie que une raffinerie utilise pour faire tourner la raffinerie.
Voilà, c'est pas la consommation des autos, hein.
Non. Oui.
Bon. C'est la consommation, c'est la déperdition.
Ce que le système énergétique consomme pour lui-même.
Ouais.
Et puis c'est aussi ce que les pertes.
Ouais.
Hein, c'est les pertes et en particulier les pertes dans le réseau électrique qui sont très importantes. Voilà. Alors pourquoi cette autoconsommation est importante? C'est parce que en fait la part de la forme finale de l'énergie qui est l'électricité est très très importante et le rendement d'une centrale thermique ne dépasse difficilement 50%. Donc c'est pour ça qu'on a une autoconsommation aussi élevée. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important aussi, c'est de connaître l'évolution de cette consommation depuis une dizaine d'années. Alors, on s'aperçoit, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est que l'énergie, ce qu'on appelle utile, c'est-à-dire le résidentiel, le transport, l'industrie, etc., cette énergie, cette consommation utile baisse depuis 10 ans. Ça fait pratiquement, depuis 10 ans, on a baissé de 8%. Et puis, ce qui concerne l'industrie, c'est même encore pire. On peut dire que depuis 1973, la consommation d'énergie pour l'industrie a été divisée par 2. Ce qui est quand même absolument, ce qui était énorme. Et ce qui peut faire dire que si l'ensemble de l'énergie utile a baissé et que l'industrie a encore plus baissé, on peut être inquiet sur une politique actuelle qui base tout sur l'augmentation de la production intérieure brute, alors que la production intérieure brute ne peut augmenter que si on augmente la consommation d'énergie. Voilà.
Mais alors, peut-être aussi la consommation d'énergie a-t-elle diminué parce que les appareils modernes sont moins gourmands en énergie, les voitures consomment moins, les appareils électriques sont plus efficaces, donc il faut peut-être nuancer.
Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, cette économie d'énergie... cette économie d'énergie a eu lieu surtout en 1973.
Oui, c'est ça.
Voilà. De 73 à 80 ou même 85, en particulier les industriels et les fabricants de voitures ont fait qu'il y a eu une énorme consommation d'énergie.
Il y a eu une énorme transition du charbon au pétrole et également du charbon au nucléaire.
Oui.
À l'époque, au début du siècle, toute notre industrie était basée sur la production de charbon. De la Première Guerre mondiale, on nous a parlé, etc. Et ça, ça a probablement contribué à un changement total en France d'utilisation d'énergie consommatrice, on va dire.
Alors. Bon, là c'est presque psychologique, mais il est certain que à partir de 73, on a essayé de ne plus gaspiller l'énergie.
Voilà. Alors effectivement, il y a deux choses parce qu'il y a, pardonnez-moi, il y a Bernard Combi qui arrive, mais en attendant qu'il s'installe, je fais une observation. Il y a la consommation d'énergie n'est pas mauvaise en soi, c'est ce que vous allez d'ailleurs dire tout à l'heure. En revanche, le gaspillage de l'énergie est nuisible évidemment, puisqu'il est source de pollution et de nuisances en tout genre. Voilà, Bernard Combi vient de nous rejoindre. Bruno Combi, pardon, vient de nous rejoindre. Alors, je rappelle qu'il est ingénieur polytechnicien, spécialiste du nucléaire, et qu'il préside l'association des écologistes pour le nucléaire, ce qui est d'ailleurs ce qui peut paraître singulier à certaines personnes, mais nous verrons que le nucléaire, en dépit de ses dangers, est une énergie écologique puisqu'elle ne pollue pas. Nous étions en train de faire un petit panorama des énergies. Nous avons parlé donc des différentes sources d'énergie. Pascal Renardet nous a montré la part de chacune énergie. Il nous a montré à quel point d'ailleurs les énergies dites renouvelables étaient modestes dans le panorama. Alors bien sûr, tout repose aujourd'hui dans les civilisations techniciennes avancées sur l'énergie nucléaire. Parce que si c'est pas le nucléaire, c'est les énergies fossiles. Il y a une peur du nucléaire, qui est d'une part la peur des accidents, d'autre part la peur des déchets. Et vous, Monsieur Combi, qui êtes un spécialiste de cette question, est-ce que vous pensez que cette peur a toujours existé ou est-ce qu'elle est relativement nouvelle? Dans les années 50, il n'y avait pas cette peur du nucléaire. Au contraire, il y avait une image très positive qui était associée à l'énergie atomique, qui était le symbole même du progrès et de l'émancipation de l'homme par rapport au déterminisme naturel. Comment est arrivée cette peur panique du nucléaire? Est-ce que c'est Tchernobyl? Est-ce que c'est Fukushima? Est-ce que ce sont les bombes atomiques? Alors je vous laisse peut-être nous parler un petit peu.
Alors vous avez raison, au début de son histoire, le nucléaire a d'abord suscité beaucoup d'enthousiasme, parce que ça a commencé à la fin du 19e siècle, puis au début du 20e. Oui. La découverte de la radioactivité, rappelons-le, a été faite par un Français, Antoine Becquerel, en 1896. Et donc, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Très vite, on s'est aperçu que ça avait des vertus utiles et notamment thérapeutiques en médecine.
Oui, effectivement.
Pour améliorer ou guérir certains malades.
Oui. Et donc, d'ailleurs, la radiothérapie existe toujours.
C'est ça. Et donc, ça peut être utilisé soit en thérapeutique, soit pour l'imagerie médicale, pour avoir des images du corps humain. Et donc, on s'en est aperçu assez vite. Ça a donc suscité beaucoup d'enthousiasme parce que c'était très utile. Et le côté négatif est surtout venu après Hiroshima, puisque ça a été une révélation assez brusque du pouvoir destructeur de cette force qui est la force la plus puissante du monde. Songez que 1 gramme d'uranium, ça produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole, de charbon ou de gaz naturel. 1 gramme pour une tonne, c'est ce que j'appelle le facteur 1 million. C'est colossal. Donc, dans la quantité de matière qu'on va prélever dans le sous-sol de notre planète pour produire de l'énergie, c'est pas une réduction d'un facteur 2 ou d'un facteur 10 qui serait déjà formidable. C'est un facteur 1 million. D'un coup, donc c'est une véritable révolution, un changement, mais c'est arrivé subitement dans l'histoire de l'humanité, le 6 août 1945, avec l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima. et donc qui où il y a eu plus de 100 000 morts dans un délai très bref.
Bien sûr,
et donc bien sûr ça a été un très fort traumatisme pour l'ensemble de l'humanité, qui a donné en quelque sorte une très mauvaise réputation à l'atome à partir de ce moment-là. Mais néanmoins, dans les années 60, il y avait encore de l'enthousiasme pour les applications civiles.
Exactement.
Et donc les pays se faisaient tous la guerre et la compétition pour celui qui ferait le plus gros réacteur le plus vite possible, le mieux possible.
D'ailleurs, pardonnez-moi de vous interrompre, mais le mot atomique avait une connotation plutôt positive, d'ailleurs.
Oui,
et
oui, absolument.
Et on utilisait le mot atomique plus que nucléaire, curieusement, à cette époque.
Oui, tout à fait.
Le mot a changé, bizarrement.
Alors, ben, c'est dans les années, c'est avec les mouvements pacifistes, dans la fin des années 60, soit ça, années 70, la montée des idées pacifiques qui ont confondu le pacifisme et l'antinucléarisme.
C'est ça.
En mettant un petit peu les deux dans le même paquet, alors que ça n'a évidemment rien à voir. On peut être pacifiste et pro-nucléaire.
Oui.
Et
on peut être belliciste et anti-nucléaire.
Oui, d'ailleurs, on va pas citer de nom, mais enfin, on connaît de nombreux exemples dans cette catégorie-là aussi. Donc, ce démarrage un petit peu négatif de la réputation du nucléaire va forcément, à un moment donné, se rétablir et rejoindre un petit peu la raison et quelque chose de plus logique.
Oui, mais alors est-ce que les risques sont-ils vraiment importants? Est-ce que le risque notamment lié aux déchets radioactifs est important? Est-ce que le risque d'accident est important? Enfin, en tout cas en France, on l'a vu, il y avait quelques accidents. Attendez, monsieur.
J'aimerais rebondir sur différentes choses, le
prince de Bourbon-Parme, donc ça.
Alors tout d'abord, un grand bonjour à tous nos amis auditeurs de Radio Courtoisie. Mais je suis une spécialiste en rien, mais je m'intéresse à tout. Et alors évidemment, j'ai envie de poser des questions et de savoir plein de choses. Mais je me souviens jeune dans les années 70, on avait mis au point, la France et la technologie nucléaire avait mis au point un petit moteur pour fabriquer de l'électricité nucléaire qui devait servir dans les centres de recherche, dans les pôles, ce qui leur permettait d'avoir des énergies électriques sans avoir à transporter du fioul et des choses comme ça. Et ce projet-là avait été annulé parce qu'on avait pensé qu'ensuite il fallait laisser ces moteurs là-bas et que peut-être ça serait embêtant que quelqu'un vienne récupérer cette énergie-là pour s'en servir à d'autres fins. Mais bon, on peut faire plein de choses avec l'énergie nucléaire, et c'est ça qui est absolument fascinant. Alors, on ne parlera pas de la voiture nucléaire, on y avait pensé aussi dans le temps. Maintenant, on sait que c'est plus une utopie qu'autre chose. Ça se fait faisable, évidemment, voilà ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui, de penser que les déchets nucléaires sont une pollution, je trouve ça un petit peu réducteur. Je trouve que faisons confiance un tout petit peu à nos chercheurs, faisons confiance à nos scientifiques. Et je suis persuadé que ces déchets nucléaires, aujourd'hui, sont une source de production et d'énergie du futur. Alors aujourd'hui, c'est un déchet, mais ce déchet est encore vivant parce qu'il est encore, il réagit encore. Et je suis sûr que dans les années à venir, on saura utiliser cela pour produire à nouveau de l'électricité.
Oui,
je pense que c'est un peu réducteur de se dire, oui, ce sont des déchets, il faut les enfouir, et on en parle.
Que pensez-vous de ces déchets nucléaires? Est-ce que, d'abord, quelle est leur quantité? Comment les stocke-t-on? On les met dans des tubes, dans des blocs de béton? Comment fait-on? On les immerge dans la mer? C'est vrai que c'est pas tout très rassurant, ce truc-là.
Tout à fait. Alors, deux choses sur lesquelles je voudrais réagir. Oui, d'abord, sur les piles électriques que vous mentionniez d'autrefois, en quelque sorte. Mais c'est encore utilisé actuellement. Je crois qu'on peut le préciser. Et il y a notamment deux domaines où c'est utilisé, où ça a été très utilisé. Vous avez dans les domaines des satellites, quand on veut des piles électriques qui durent longtemps pour envoyer dans l'espace, sur la sonde Cassini, par exemple, eh bien, on fait des piles, par exemple, au plutonium, parce que ça produit de l'électricité pendant beaucoup plus longtemps que des piles pour un poids beaucoup moindre. C'est encore utilisé dans l'espace comme pile à forte longévité.
Mais elles irradient, elles sont dangereuses.
Alors quand c'est au plutonium, ça irradie, mais c'est arrêté par une simple feuille d'aluminium.
Ah, ça suffit.
Donc c'est pas dangereux pour des personnes qui le manipulent, même qui préparent la sonde, par exemple. Il faut bien sûr pas ingérer ce plutonium.
Mais en
irradiation externe, des rayonnements pour les gens qui sont devant, il y en a même pas du tout.
Ce qui veut dire que dans ma trottinette électrique que j'utilise pour me déplacer dans Paris, je pourrais avoir une pile au plutonium.
Et vous auriez une pile surpuissante, mais bien sûr, c'est pas le cas aujourd'hui.
C'est très intéressant.
Où est-ce que je peux
acheter ça?
C'est pas disponible, à vrai dire. Mais ça, c'est une première chose. Un deuxième exemple, c'est les piles cardiaques.
Ah oui.
C'est que pendant longtemps, le plutonium était utilisé dans les pacemakers pour les piles cardiaques qui étaient implantées à l'intérieur du corps humain. Et ça permettait d'avoir des piles qui duraient plus longtemps. que les piles avec d'autres métaux qui n'étaient pas radioactifs.
Donc, évidemment.
Il suffit, rappelons-le, d'une simple feuille de papier ou couche d'aluminium pour arrêter le rayonnement alpha du plutonium. Et donc, ça ne présentait aucun danger pour les malades, puisque là, c'était contenu dans la pile qui était étanche. Bien sûr. Permettait à la pile de durer beaucoup moins longtemps, donc aux malades de vivre beaucoup plus longtemps, sans qu'on ait besoin de le réopérer, parce qu'une opération à cœur ouvert
ou un risque opératoire
cardiaque, c'est quand même important.
Tout à fait.
Et donc, ça permettait d'avoir des piles plus performantes, qui aujourd'hui ne sont plus utilisées comme telles, parce qu'on considère que c'est radioactif, donc présumé très dangereux. Mais on a du coup des piles qui durent pas toujours aussi longtemps.
Donc,
pas forcément. Alors, donc, pour la santé du malade.
Donc, on rejoint finalement ce que nous disions hier encore avec Pascal Renardet, c'est que derrière les normes environnementales, il y a une peur de l'atomique ou du nucléaire qui s'est développée de manière insidieuse, mais qui s'est développée de manière tellement forte que même en Allemagne, on a décidé d'abandonner l'énergie nucléaire. Et qu'en Suisse, il y a d'ailleurs un débat très important là-dessus. Beaucoup de Suisses ne veulent pas qu'on abandonne le nucléaire. Mais on n'a pas tellement le choix. Parce que le problème, c'est que si on abandonne le nucléaire, qu'est-ce que l'on a ? Le charbon et le pétrole et le gaz. Mais c'est tout.
C'est ça, ce qui émet des grandes quantités de carbone et de pollution dans l'atmosphère avec les oxydes de soufre qui font les pluies acides, qui détruisent les forêts, avec les oxydes d'azote qui font toutes les maladies respiratoires qu'on connaît dans les grandes villes, qui sont des irritants.
Donc on n'a pas d'embarras du choix.
Donc on n'a pas, Et en France, c'est ce qu'on disait dans les années 70, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a pas de charbon, mais on a des idées et heureusement on a le nucléaire qui produit beaucoup d'énergie à partir de pas grand chose.
Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais quelque chose comme 200 centrales nucléaires qui sont en construction à travers le monde. Dans tous les pays pour faire face justement à ce manque d'énergie.
Alors vous avez raison, 200 c'est peut-être un petit peu moins, mais il y a un grand nombre de centrales nucléaires en construction dans le monde aujourd'hui, dans différents pays. La moitié de ces centrales en construction sont en Asie, dont une grande partie en Chine, mais également en Inde, en Corée, etc. Mm-hmm. Alors en Afrique, on en a déjà construit plusieurs, notamment en Afrique du Sud, à Coburg, et il y a des appels d'offres pour en faire en plus encore. Il y a des centrales nucléaires en construction aussi en Grande-Bretagne, en Finlande, bien sûr, dans différents pays. Et donc on voit que le nucléaire n'est pas mort, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, mais au contraire, il est bien vivant. Et on a des nouvelles générations de réacteurs arrivent.
Oui, ça c'est intéressant.
Tout à fait utiles et positifs pour l'avenir, encore plus propres, encore plus sûrs, encore plus performants.
Et alors, ils n'émettraient plus de déchets ? Comment ça se passerait, justement ?
Non, il y a toujours des déchets, mais il y en a tellement peu que c'est toujours bien d'en faire moins, mais moins que très très peu, c'est toujours très très peu et encore mieux, bien sûr. Mais c'est bien ce facteur 1 million qu'il faut comprendre, qui fait toute la différence du nucléaire par rapport aux autres sources d'énergie. 1 million, c'est en masse, c'est la masse d'uranium par rapport à la masse qu'il faudrait de charbon ou de pétrole. Donc un facteur 1 million, c'est énorme comme réduction, c'est colossal. À cause de ce facteur 1 million, la stratégie pour les déchets dont vous parliez tout à l'heure a été très différente depuis le début de l'histoire du nucléaire. Comme on produit les déchets, c'est jamais que la matière première qui se transforme, donc on a à peu près la même quantité de déchets que ce qu'on avait de matière première au départ. Donc, 1 million de fois moins de déchets, c'est déjà fantastique, mais les déchets de la combustion du gaz, du pétrole et du charbon, c'est principalement du CO2 qu'on envoie directement dans l'atmosphère.
Oui, avec des effets négatifs aussi. Oui.
Et c'est un gaz qui est donc extrêmement difficile à contenir, à confiner par définition, puisque c'est un gaz, ça va s'infiltrer partout, et sa densité est 1000 fois moindre que ce que celle des éléments légers.
Oui.
Mais c'est de l'ordre de 100 000 fois moins que celle des éléments lourds. Or, la plupart des déchets nucléaires sont des déchets solides, qui sont très lourds. C'est même les éléments les plus lourds qui existent sur Terre. L'uranium, 235 ou 238, c'est très très lourd par rapport au carbone qui pèse 12, par exemple. Donc, il y a un facteur 100 en plus entre les deux. Donc, quand on parle en masse de déchets, comme le CO2, on a brûlé l'oxygène, donc il y a environ 3 fois plus de masse de CO2 que de masse de carbone qu'il y avait au départ. Et à l'inverse, les déchets nucléaires, eh bien, il y en a pas plus. C'est seulement une fraction, puisqu'il y en a une partie qui a disparu. Et donc, on a une fraction de 1 million de fois moins. Et quand on parle en densité ou en volume, eh bien, comme un gaz, c'est 100 000 fois plus volumineux. Vous voyez qu'on est des facteurs de l'ordre de 100 milliards sur la quantité de déchets. Donc ce qui est déjà un atout pour ne pas abîmer la planète au niveau de la matière première, un million de fois moins, ça devient des facteurs plus de 100 milliards sur les déchets. Donc c'est vraiment une quantité qui existe, mais qui est infinitésimale. C'est ça qu'il faut comprendre.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il y a la possibilité, comme l'évoquait le prince à l'instant, de réutiliser ces déchets dans un avenir plus ou moins lointain, et de les rebrûler, ou d'en refaire une source d'énergie?
Alors bien sûr, pour une partie d'entre eux, et d'abord il faut bien s'accorder sur la définition du déchet.
Oui.
Parce que dans le domaine du nucléaire, la France est leader mondial sur cette question-là. Il y a le retraitement qui est par définition une activité écologique.
Oui.
Puisqu'il s'agit de prendre quelque chose qui a servi, qui ne peut plus servir, et on va séparer ce qui peut être réutilisé de ce qui ne peut pas l'être. Donc c'est ce qu'on appelle du recyclage en termes écologiques. Donc le retraitement des déchets nucléaires, c'est une activité écologique par définition. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend les éléments de combustible usé qui sortent de la piscine du réacteur. On va les tronçonner en petits morceaux, les dissoudre dans de l'acide et on va séparer les trois constituants. Donc on a à la sortie trois paquets. Vous avez l'uranium qui n'a pas brûlé, qui constitue tout de même 96% du combustible sorti de la piscine, c'est de l'uranium imbrûlé. Donc c'est un petit peu comme si on brûlait une bûche en chêne et qu'on brûle juste l'écorce qui est à la surface. Et il reste encore toute la bûche elle-même. Donc ça c'est l'uranium 235. Du 238 qui n'a pas brûlé. Et puis un petit peu de 235 a brûlé, mais il en reste quand même 1% encore à peu près. Donc celui-là, on le récupère et on peut le réutiliser soit dans les réacteurs d'aujourd'hui, soit dans les réacteurs de demain. Et puis on a 1% de plutonium qui est apparu sous l'effet des réactions nucléaires. Donc c'est l'uranium 238 qui va capter un neutron, et 238 plus 1, ça fait 239. Et donc c'est le plutonium 239, ou 240 ou 241 s'il capte des neutrons en plus.
Oui.
Et donc celui-là, eh bien, on a tendance à croire que c'est un déchet dangereux.
Oui, oui.
Et en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt une ressource pour le futur, puisque un kilo de plutonium ou un gramme de plutonium a encore plus d'énergie qu'un gramme d'uranium.
Ah, oui.
Donc c'est pas du tout un déchet, c'est une ressource extraordinaire.
Sauf qu'on sait pas l'utiliser.
Pour les réacteurs d'aujourd'hui, le parc français est à peu près à l'équilibre en termes de plutonium, c'est-à-dire que on récupère ce plutonium, on le mélange avec de l'uranium et on le charge dans nos réacteurs d'aujourd'hui
et
que ça permet de brûler en partie ce plutonium. On redémarre, on refait plusieurs tours, c'est ce qu'on appelle le combustible MOX, ça veut dire mixed oxide. Donc c'est parce qu'il y a plusieurs métaux, on mélange l'uranium et le plutonium. Et donc ça permet d'avoir un combustible mixte qui du coup consomme du plutonium au lieu d'en produire. Et donc, sur l'ensemble du parc français, on est à peu près à l'équilibre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on consomme à peu près autant de plutonium que ce qu'on produit. Voilà. Mais on pourrait consommer plus si on voulait, ou en consommer moins. Maintenant, si on considère que le plutonium est une ressource pour les réacteurs du futur, parce que nos réacteurs aujourd'hui marchent surtout à l'uranium 235, qui est le cœur du combustible qui fournit la principale partie de notre énergie, mais ça peut être aussi du plutonium, comme c'est le cas, en partie. Mais aujourd'hui, si on consomme principalement du 235, qui est une ressource précieuse, parce qu'elle n'est pas infinie dans la nature, même s'il y en a beaucoup, il faut quand même pas la gaspiller. Mais les réacteurs de demain, eux, ne marcheront, les réacteurs ce qu'on appelle de génération 4, à neutrons rapides, marcheront principalement au plutonium, justement. Donc c'est peut-être une erreur de brûler le plutonium aujourd'hui, le plus vite possible dans nos réacteurs d'aujourd'hui, alors qu'on en aura demain besoin. Ça sera le futur heure noire de demain, où tout le monde courra après, parce que pour démarrer un réacteur à neutrons rapides, il faut environ 10 à 15 tonnes de ce plutonium, qui n'est pas de qualité militaire, rappelons-le, puisque le plutonium qui sort des réacteurs à eau sous pression après un cycle de combustible qui dure typiquement 3 ans ne permet pas de faire des bombes très dangereuses. D'ailleurs, les pays qui font des bombes atomiques au plutonium n'ont jamais fait avec des réacteurs à eau sous pression, parce que c'est la manière la plus stupide de le faire.
Oui, oui. Mais alors, quels sont les risques d'accident maintenant? Parce que ça, c'était après la question des déchets que vous avez très bien évoqué.
Alors,
le problème des accidents, tout le monde a terriblement peur.
Alors je dirais qu'à travers ma petite connaissance, il y en a eu 3, il y en a eu un aux États-Unis, il y en a eu un en Russie, et il y en a eu un au Japon. Le premier, je me souviens plus très bien de la cause, vous allez peut-être pouvoir me le rappeler, mais les deux suivants, les Russes ont fait des expériences qui les ont menés à un emballement, donc ça aurait pu très bien ne pas se passer s'ils n'étaient pas amusés à jouer avec le feu, si on peut s'exprimer comme ça. Et puis les Japonais ont quand même construit une centrale nucléaire dans une zone sismique. Donc c'est avec un tout petit peu de bon sens, je pense que les deux derniers, nous aurions pu nous en passer très facilement.
Ben avec un tout petit peu de bon sens, on aurait pu les éviter à peu près tous, mais le bon sens n'est pas toujours la chose.
Je ne suis pas du premier du monde.
Et voilà. Donc on va les passer un par un pour en parler.
Oui, c'est intéressant. Excusez-moi, juste avant de faire ça, je voudrais remercier le professeur Tournafond, parce que je me tue à dire depuis des années que pour être un bon écologiste, finalement, il fallait être pro-nucléaire. Oui. Les gens me regardent avec des yeux grands comme des soucoupes quand je dis ça. Eh bien, aujourd'hui, j'en ai un devant moi. Et je suis conquis, je suis conquis.
on est plus nombreux que ce que vous pensez, puisque dans notre association, nous avons 15 000 membres et signataires dans 65 pays. Donc, vous serez bienvenus si vous voulez nous rejoindre.
Mais tout à fait.
Ça peut même être gratuit. Il suffit de nous envoyer un courrier ou signer un petit papier ou une carte de visite.
Nous en parlerons tout à l'heure, mais ça sera avec bonheur.
Et donc effectivement, un réacteur nucléaire, c'est 1000 mégawatts. 1000 mégawatts, c'est une très grosse puissance. Donc c'est comme quand on conduit une voiture très rapide. Il faut être prudent. Donc il faut être prudent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre des précautions. Quand au stade, c'est pour prendre l'image de la voiture où on construit la voiture. Et ensuite, il faut, quand on conduit la voiture, être prudent également. Et donc c'est pareil pour le nucléaire, c'est pas compliqué, il faut être prudent, construire des types de réacteurs qui sont pas instables, qui ont des enceintes de confinement au cas où tous les systèmes de sécurité seraient pris en défaut. Et puis bien sûr, il faut avoir le plus de systèmes de sécurité possible, de manière à ce que dès que quelque chose ne va pas bien, le réacteur automatiquement va se mettre en sécurité tout seul et s'arrêter. Donc bien sûr, c'est le cas sur, c'est comme ça qu'ont été conçus tous les réacteurs nucléaires dans le monde, même ceux qui ont eu des accidents comme Tchernobyl, Three Mile Island aux États-Unis en 1979, Tchernobyl en 86 et Fukushima en 2011. Donc ces réacteurs avaient tous des systèmes de sécurité, ils n'avaient pas tous une enceinte de confinement. Par contre, et là on voit tout de suite la différence sur l'impact de l'accident, puisqu'en 1979, alors on va prendre le premier, on les prend dans l'ordre. 1979, aux États-Unis, en Pennsylvanie, Three Mile Island. Donc c'est un réacteur à eau sous pression, tout à fait comparable au nôtre, avec une enceinte de confinement. Et ce jour-là, eh bien, il y a eu une erreur. Tout d'un coup, il y a eu des signaux rouges qui se sont allumés en salle de contrôle. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont mal compris ce qui se passait. Donc, ils ont, en croyant bien faire et en voulant mettre le réacteur en sécurité, ils ont appuyé sur les mauvais boutons et ils ont aggravé le problème et causé la perte du réacteur. Mais, donc le réacteur a fondu, un peu comme à Fukushima.
Oui.
Donc c'est ce qu'on appelle l'accident le plus grave dans le nucléaire, hein, perte de contrôle du réacteur, fonte du réacteur, fuite radioactive, etc. Mais comme c'était un réacteur avec une épaisse enceinte de confinement en béton armé de 1 mètre d'épaisseur, la radioactivité est restée entièrement confinée dans cette enceinte. Et donc il n'y a pas eu un seul mort par radioactivité à l'extérieur et même pas un seul blessé.
Ah oui, aucun
dégât collatéral. Et la quantité de radioactivité rejetée dans l'environnement est infiniment faible, quasiment nulle.
Oui.
Par contre, ça a été la panique comme pas possible, puisqu'il y avait eu peu de temps avant un film avec Jane Fonda qui était sorti, qui s'appelait Le syndrome chinois, où on faisait peur sur le nucléaire à la population américaine et on expliquait que un réacteur qui fond aux États-Unis pouvait fondre, traverser toutes les corses terrestres et ressortir en Chine ou au Japon de l'autre côté. Et donc évidemment c'est complètement irréaliste, mais comme ce film avait eu beaucoup de succès et que beaucoup d'Américains l'avaient vu, ils ont entendu qu'il y avait un réacteur qui avait fondu à la télévision, ils ont tous eu très peur et ça a été la grande panique dans les médias. Mais quand on analyse froidement aujourd'hui avec le recul, eh bien, il n'y a pas eu de mort ni de blessé à cause de la radioactivité. En réalité, grâce à l'enceinte de confinement qui était prévue, tout simplement. Malgré le fait qu'ils ont appuyé sur les mauvais boutons et aggravé la fonte du réacteur au lieu de l'arranger.
Alors ça, c'était le premier accident.
Parce qu'il y a un retour d'expérience dans le domaine du nucléaire. Depuis, donc, tous les opérateurs de nucléaire du monde entier ont modifié les réacteurs et les ont améliorés en tenant compte
de cette
expérience, hein, et notamment en améliorant ce qu'on appelle l'interface homme-machine, parce que ce qui s'est passé à Three Mile Island, c'est qu'il y avait, au cas où il y a des défauts sur certains circuits, il y avait des lumières orange et rouge qui s'allumaient, puis sur d'autres circuits encore d'autres, mais quand le cœur du réacteur a fondu, il y avait beaucoup de problèmes à beaucoup d'endroits, et donc l'opérateur s'est retrouvé avec une sorte de sapin de Noël qui clignotait toutes les couleurs en face de lui, et avait du mal à hiérarchiser et à comprendre ce qui se passait et quelle était l'action la plus urgente qu'il devait faire. Donc c'était suite à ça, toutes les centrales nucléaires du monde entier ont amélioré ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Et vous avez plusieurs niveaux de détails suivant la gravité de l'accident. Et vous avez certains tableaux où sont les informations essentielles. Et si on comprend pas ou si ça va mal, on se concentre plus que sur ce tableau-là et on s'occupe plus du reste.
Mais alors, à Tchernobyl, en 1986, les Soviétiques ne semblent pas avoir tenu compte de l'expérience de l'accident de 1979. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
en 1986, c'est différent à Tchernobyl, dans la mesure où là, il s'agit d'un réacteur de conception soviétique qui n'a pas d'enceinte de confinement, qui au départ est un réacteur militaire dont le but est de produire du plutonium.
Oui.
C'est un réacteur d'une technologie très différente qu'on appelle graphite.
Oui.
Le graphite, c'est du charbon, donc vous avez plus de 500 tonnes de charbon, de charbon avec des cavités, des sortes de tuyaux creux, dans lesquels on met le combustible nucléaire. Et donc, comme c'est du charbon en plus de mauvaise qualité, les Japonais qui font aussi des réacteurs plus modernes au charbon, au Japon, c'est un charbon qui ne brûle pas, même en cas de surchauffe du réacteur. Mais en Russie, ils avaient pris du charbon de mauvaise qualité. Vous savez que le charbon, ça brûle à cause de ses impuretés. Le charbon très pur, c'est du diamant.
Ah bah oui.
Et le diamant ne brûle pas.
Ah bon, le diamant, parce que...
Voilà, donc un charbon de bonne qualité ne brûle pas.
Et bon, et il était trop bon celui-là.
Celui qu'ils avaient pris à Tchernobyl, c'était du charbon pas cher.
Ah oui.
Et donc lui, il brûlait. Donc
très
quand
bien.
Le réacteur a surchauffé, il a pris feu et ça a jeté dans l'environnement. Il n'y avait pas d'enceinte de confinement.
Oui.
Et donc la moitié du contenu du cœur radioactif s'est retrouvé jeté dans l'atmosphère sans aucune barrière puisqu'il n'y avait pas d'enceinte de confinement.
Oui, oui.
Et donc là, c'est une quantité énorme de radioactivité qui a été rejetée en l'espace d'une quinzaine de jours, principalement dans l'atmosphère. Et donc ça a fortement irradié sur place le site et même dans les environs, aux alentours. Donc d'où la nécessité d'évacuer notamment la ville de Pripyat qui était à une quinzaine de kilomètres.
Est-ce que la radioactivité a frappé la France dans des proportions importantes?
Alors, bien sûr, le nuage radioactif ne s'arrête pas aux frontières, c'est une évidence. Je crois qu'il faut, d'ailleurs, puisqu'on est sur votre antenne, préciser que les autorités à l'époque nucléaire n'ont pas dit ça. Parce que ça a été répété mille fois en boucle dans les télévisions et sur certaines radios, pas la vôtre. Mais il faut dire que le professeur Pellerin, qu'on a longtemps accusé d'avoir menti aux Français en disant que le nuage s'est arrêté à la frontière, en réalité n'a jamais dit que le nuage s'est arrêté à la frontière. Il n'a pas dit ça. Donc c'était de la calomnie à son égard. Mais comme c'était un haut fonctionnaire, il a demandé à ses supérieurs hiérarchiques comment il devait répondre et on lui a dit que...
Il fallait dire ça.
On lui a dit de ne rien dire, de se taire.
Ah oui.
Et donc pendant des années, il n'a pas pu répondre jusqu'à ce qu'il soit de nombreuses années plus tard à la retraite. Mmh. Et là, il a systématiquement attaqué en diffamation ceux qui le traitaient de menteur et d'avoir dit cette phrase que le nuage s'arrête à la frontière. Et il faut préciser, il a gagné tous ses procès.
Oui. Et qui a sorti cette idée que le nuage...
Eh bien, différents journalistes, il y en avait, toutes sortes de journalistes, notamment ceux avec des tendances écologiques, et puis certaines associations qui répètent en boucle des choses fausses, mais parce que ça les arrange.
Alors, est-ce qu'il y a eu un risque important pour la santé publique? Est-ce qu'il y a des pathologies lourdes qui sont conséquences
évidemment,
de Tchernobyl?
Le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière, et il a irradié principalement trois pays ex-soviétiques,
c'est
la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie.
Oui.
Donc et ensuite ce nuage s'est répandu un peu partout en Europe, puis un peu partout dans l'hémisphère nord, puis un peu partout dans le monde.
Oui.
Bien évidemment, sauf que à mesure que ça s'éloigne du point source, ça se dilue. Et donc comme il y a trois dimensions la droite, la gauche et la verticale, ça se dilue en fonction du cube de la distance en première approximation. Mm-hmm. Donc quand vous êtes 10 fois plus loin, vous recevez une dose 1000 fois plus faible, et quand vous êtes 1000 fois plus loin, vous recevez une dose 1 milliard de fois plus faible.
Oui.
Donc il y a des gens pour bien comprendre. Bien sûr, c'était toxique pour les gens qui étaient sur place ou qu'on respirait directement cette épaisse fumée noire qui se dégageait du réacteur, qui toxique comme ça arrive parfois dans les incendies, et là qui était toxique par sa radioactivité très forte, bien sûr. Mais quand on s'éloigne, eh bien ça se dilue et ça se dilue beaucoup. Vous aviez par exemple plusieurs milliers de travailleurs de la centrale de Tchernobyl qui étaient sur place le jour de l'accident, et ces travailleurs ne sont pas morts.
Alors justement, c'est une question très importante. Beaucoup d'écologistes de gauche en particulier répandent le bruit vraisemblable, il y aurait eu 40 000 morts à Tchernobyl. Quel est le nombre de morts en vérité?
Alors, d'abord, ma première réponse va être un peu floue, et la deuxième sera plus précise. La réponse floue, c'est qu'on ne peut pas répondre exactement à cette question, parce que toutes les personnes irradiées n'ont pas été suivies une par une.
Ouais.
Donc on peut pas, c'est difficile de donner une réponse précise. Maintenant, vous avez plusieurs catégories, donc on va quand même tourner autour du sujet de manière plus précise. Il y a plusieurs catégories de populations qui sont différentes. Vous aviez les populations la plus exposée, c'était les pompiers, qui ont travaillé juste au moment de l'accident pour éteindre l'incendie.
Oui,
ceux-là, ils rentraient dans le bâtiment qui était en flammes, dont il se dégageait, parce que c'était du charbon qui brûlait, une épaisse fumée noire, qui était hautement chargée en produits hautement toxiques et radioactifs, pas seulement radioactifs, d'autres produits toxiques aussi, mais en plus fortement radioactifs. Et donc, sur ces pompiers qui ont respiré cette épaisse fumée noire, il y en a eu environ 240 qui ont été fortement irradiés avec ce qu'on appelle SIA, syndrome d'irradiation aiguë. Donc là, il n'y a aucun doute pour ces personnes-là, parce que ce sont des symptômes connus comme provenant de la radioactivité et survenant dans un temps faible après l'irradiation, c'est-à-dire dans un délai de quelques semaines au maximum. Certains sont morts presque tout de suite, d'autres dans les jours suivants, d'autres dans les semaines suivantes.
Voilà.
Et donc il y a eu sur cela une petite quarantaine de décès.
D'accord. Ah, une quarantaine de décès, ils ne sont pas tous
un peu
morts,
moins.
Donc.
Ah non, non, les 200, c'est 240 blessés graves.
Oui, mais
dont
donc 40...
une quarantaine de morts.
On est loin des 40 000, volontaires.
On est loin des 40 000. Et donc cela, il n'y a aucun doute, parce que c'est à cause de leur exposition à la radioactivité. C'est sûr et certain. Donc ensuite, vous avez une deuxième catégorie de population, c'est les travailleurs de la centrale. Donc là, ils sont plusieurs milliers qui étaient sur place le jour de l'accident, mais qui n'ont pas été fortement irradiés, parce que le vent, et vous avez, c'était l'unité numéro 4, de la centrale de Tchernobyl, et vous avez l'unité 1, 2, 3, 4, elles sont alignées les uns à côté des autres, et heureusement, le vent soufflait dans le bon sens, donc le vent éloignait ça des réacteurs 1, 2 et 3. Donc il faut savoir que les réacteurs 1, 2 et 3 ont continué à fonctionner normalement jusqu'au mois de juin. L'accident, c'était le 26 avril, donc jusqu'à l'été, ils ont fonctionné normalement, ils n'ont pas arrêté les trois autres réacteurs, parce qu'ils ont, ils sont pas complètement fous quand même en Russie, ils avaient des compteurs GGR, ils ont vu que le vent soufflait pour éloigner la radioactivité, donc ils ont considéré que c'était pas dangereux et qu'ils pouvaient continuer à fournir de l'électricité avec un réacteur 1, 2, 3.
Voilà.
Et donc cette population-là n'a pas été très fortement irradiée, elle a été un peu irradiée quand même, et ils n'ont pas arrêté le réacteur avant l'été suivant. Donc on voit bien que dire qu'en France on va tous mourir, alors que des gens qui étaient à 50 ou 100 mètres du réacteur et qui n'ont même pas arrêté d'y aller les jours d'après, au moment où il y avait la très forte radioactivité, on voit bien qu'il y a une sorte de contradiction, quelque part. Ceux qui ont été très fortement irradiés, c'est ceux qui étaient dans le bâtiment ou directement sous le vent. Mais ceux-là, ils étaient relativement peu nombreux. Donc ça, c'est une deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les liquidateurs. Donc on dit qu'il y en aurait, alors les chiffres varient entre 300 000 et 600 000.
Qu'est-ce que c'est que ces liquidateurs?
Alors pourquoi est-ce que ça... Alors liquidateurs, c'est qu'une fois, que la phase d'urgence, qui était d'arrêter l'incendie, était passé, c'est-à-dire au bout d'environ une vingtaine de jours, on rentre dans une deuxième phase où le but est de diminuer la radioactivité sur le site et d'essayer de revenir à un état normal. Il n'y a plus de risque de divergence immédiate, il n'y a plus d'incendie qu'il faut arrêter. Donc le but, c'est de nettoyer en quelque sorte l'endroit. C'est pour ça qu'on l'appelle liquidateur. Le terme est assez mal choisi. Ça fait un peu Terminator, c'est un peu chargé émotionnellement avec une capacité de destruction extraordinaire. Mais en réalité, on pourrait dire que c'est des sortes d'hommes ou de femmes de ménage qui viennent avec certains un balai, d'autres un karcher et des outils de nettoyage pour épurer le site de sa radioactivité. Il y en a, ça se fait beaucoup au bulldozer, on enlève la terre et on décide qu'on la met, on soit en enterre ailleurs, un endroit où ça gêne personne, ou alors on la met dans un site de stockage de déchets nucléaires. Donc ces liquidateurs, il y en a eu beaucoup parce que le site était quand même relativement contaminé. Et donc, pour éviter qu'une personne donnée reçoive une dose qui mettrait en danger sa santé, chacun n'y allait qu'un tout petit peu, de manière à rester en dessous de la dose qui est dangereuse pour la santé, ce qui est tout à fait un bon raisonnement. Et donc, puisqu'il y a une dose autorisée, et donc dans ce troisième temps, en quelque sorte, la dose reçue par personne, il y a un grand nombre de personnes, mais la dose reçue est infiniment faible et très en dessous de la dose dangereuse. Voilà. Donc ça, c'est une autre catégorie de population. Alors pourquoi est-ce que les estimations varient? Certains disent il y en a 200 000, 300 000, d'autres 600 000. Parce que il y a un statut du liquidateur qui a été donné après coup et qui permet d'avoir une pension et une retraite à vie.
D'accord.
Et donc au moment de demander la pension, il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé la pension et qui avaient tous les papiers, les coups de tampon nécessaires
pour devenir liquidateur.
Parce qu'on est dans des pays où ça se fait un peu comme ça, de manière bureaucratique. Et donc il y a eu beaucoup plus de cartes de liquidateur distribuées qu'il n'y a eu liquidateur réel, parce qu'il y avait des avantages associés. Mais parmi ces liquidateurs, il y a eu... alors dans la population les plus exposées, donc en Russie, Biélorussie, Ukraine et liquidateurs, donc il y a eu un suivi. Alors la seule maladie qui est augmentée, c'est les cancers de la thyroïde.
Oui.
Et donc il y en a eu plus, de manière indubitable, par rapport aux cas qui étaient répertoriés d'avant. Ce surcroît est de l'ordre de quelques milliers. C'est pas les 80 000, les 800 000 et les millions qu'on entend parfois à la télévision dans la bouche de certains anti-nucléaires. Mais il y a eu plusieurs milliers de cas de cancer de la thyroïde en excès par rapport à avant. Parce qu'il y en avait déjà avant, il faut quand même le préciser.
Et donc chez les liquidateurs.
Voilà. Mais la question c'est, est-ce que ils viennent, ou dans quelle proportion, est-ce qu'il y a deux questions. Premièrement, dans quelle proportion est-ce qu'ils viennent de l'accident ou d'ailleurs? Parce qu'il y a des choses qui ont changé entre avant et après l'accident. D'abord, peu de temps avant l'accident, ces régions qui sont des régions intérieures assez loin des océans, et les autorités soviétiques avaient remarqué qu'elles étaient carencées en iode et ont donc fait une supplémentation massive en iode de la population en mettant des grandes quantités d'iode dans le sel. Le sel de table qui était mis par les habitants sur leur cuisine était systématiquement iodé à forte dose dans les années juste avant. Ce qui peut aussi dérégler la thyroïde et éventuellement donner des goitres, des cancers ou ce genre de choses. Et donc il y a une incertitude sur la part des goitres et des cancers qui viennent de l'iode distribué massivement à peu près au même moment et de ce qui viendrait de l'accident de Tchernobyl. Donc tout n'est pas clair à ce sujet-là. On ne sait pas. Mais par mesure de précaution, l'Organisation mondiale de la santé et les scientifiques qui ont fait les études supposent que tous les cancers en excès par rapport à ce qui était répertorié avant sont supposés, en quelque sorte, venir de Tchernobyl. Oui. Et donc, on en trouve plusieurs milliers, quand on fait les calculs comme ça. Mais il faut bien préciser que c'est pas plusieurs milliers de morts, mais qu'il s'agit de plusieurs milliers de cancers diagnostiqués et traités. Oui. Parce que le cancer de la thyroïde, fort heureusement, est un cancer qui se traite très bien, et qui se guérit très bien quand c'est correctement pris.
Oui.
Le traitement est assez simple, on fait une ablation de la thyroïde, si c'est nécessaire, et on prend en ce moment-là des hormones de substitution, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps du levothyrox, c'est ce que prennent les gens qui n'ont plus de thyroïde pour avoir quelque chose qui ressemble à la thyroxine, ce qui est l'hormone sécrétée par la thyroïde et qui joue un rôle important dans la régulation d'un certain nombre de choses dans le corps humain. Voilà. Et donc c'est un cancer qui se traite très bien. Bien sûr, c'est vraiment pas drôle. C'est toujours un drame pour chaque personne individuelle, puisqu'on est obligé de prendre de la thyroxine à vie.
Oui.
Mais néanmoins, on peut vivre avec de la thyroxine toute sa vie de manière presque normale.
Voilà. Alors il y a des questions qui affluent en permanence, mais avant qu'on ne parle de Fukushima, je veux peut-être très rapidement voir les questions. Donc on va dire pour Tchernobyl, donc un désastre sur le plan écologique bien sûr et sanitaire, mais un désastre qui n'a pas les proportions qu'on lui impute actuellement. Et en tout cas, on est très loin de l'hécatombe monstrueuse qu'on avance, parce que dire que Tchernobyl c'était pire qu'Hiroshima, c'est idiot. C'est de toute façon, est-ce qu'il y a eu d'ailleurs une augmentation significative des cancers de la thyroïde en Europe occidentale? J'en suis même pas certain, puisque maintenant on a du recul.
Alors oui et non.
Dans l'Alsace, en Suisse peut-être,
alors,
dans les régions
comme
frontalières.
Comme vous venez de le dire, je suis obligé de répondre oui. Il y a eu une augmentation des cancers de la thyroïde depuis l'accident de Tchernobyl. Oui. Parce que les cancers de la thyroïde augmentent dans tous les pays développés et depuis avant l'accident de Tchernobyl. Il y a une augmentation régulière du nombre de cas de cancer de la thyroïde dans nos sociétés modernes. Mais c'est le cas aussi au Canada, où il n'y a quasiment pas eu de retombée de Tchernobyl. C'est le cas aussi au Japon, par exemple, qui est très loin également. C'est dans tous les pays développés, et il y a donc d'autres facteurs que ça. D'ailleurs, ça peut pas être essentiellement dû au rejet de Tchernobyl, pour une raison simple, c'est que les rejets de Tchernobyl ne sont en iode radioactif, donc qui peut donner ce cancer de la thyroïde, ne sont qu'une toute petite fraction des rejets qui ont été faits dans les années 50, 60 et 70 avec les essais nucléaires.
Ah oui, oui.
Et donc on est de l'ordre du 10e ou du 20e, donc on a rejeté 20 fois plus que ça et on s'est pas affolé. Et donc les cancers de la thyroïde montent depuis avant tout ça, dans tous les pays. Et ça n'est pas corrélé à la dose qui est retombée sur chaque pays. Donc il y a d'autres causes. Et dans ces causes, il y en a une toute simple. C'est que autrefois, on diagnostiquait comme étant un cancer de la thyroïde, un goitre qui était déjà assez gros et qui faisait souvent plusieurs centimètres au moment où on diagnostiquait. Parce que les gens avaient, une partie de la population avait des gros mentons, on considérait que c'était un peu normal et tant que c'était pas trop gros, c'était pas diagnostiqué comme cancer. Aujourd'hui, dès que vous avez le moindre petit point ou grain de quoi que ce soit, on vous fait une imagerie médicale tout de suite, et si vous avez, on détecte des cancers qui font même juste quelques millimètres de diamètre. Et donc, quand vous cherchez des goitres tout petits, vous en trouvez un très grand nombre qui autrefois n'étaient pas diagnostiqués. Donc, il y a un surdiagnostic qui est lié à la méthode de diagnostic elle-même
cancers,
et non pas au fait qu'il y a forcément beaucoup plus de cancers qu'avant. D'autant plus que c'est un cancer qui, dans certains cas, évolue fort lentement, surtout chez les personnes âgées. Et donc, beaucoup de personnes mouraient avec des mentons un peu gonflés. Ouais, et on s'inquiétait pas plus que ça de leur cancer. Et souvent, ils finissaient par mourir d'autre chose, d'ailleurs.
Oui, ils mouraient pas de ça. Finalement.
Alors aujourd'hui, on diagnostique beaucoup plus tôt. On fait des ablations de la thyroïde beaucoup plus vite, quand c'est correctement diagnostiqué, bien sûr. Et donc, il y a un plus grand nombre de cas diagnostiqués. Mais alors, une grande partie de ces cas viennent du diagnostic lui-même.
Alors, toujours les questions arrivent. Alors, on va passer, avant de passer à Fukushima, je cite quelques questions parce qu'il faut quand même que nos auditeurs puissent avoir la parole. Alors, il y a des questions tout à fait générales. Un auditeur nous dit qu'il est écœuré et scandalisé parce que, alors, je comprends pas bien cette question, par la réponse de nos invités, qui sont pour les éoliennes et à 100% contre le nucléaire. C'est pas du tout le cas dans cette émission, en tout cas. Alors, c'est d'autres émissions où il y a eu des invités qui ont critiqué le nucléaire et qui étaient pour les éoliennes. Enfin bon, ici, en tout cas, je sais pas qui c'était, mais nous, on n'est pas responsables. Il y a une autre question qui parle d'un rassemblement pour la liberté de circuler. C'est le 1er octobre, mais ça n'a absolument aucun rapport avec la question que nous traitons. Et il y a une question intéressante sur le prix d'une centrale nucléaire. Ça, il faut qu'on en parle avec la question des retraitements. Et les autres questions portent surtout sur les éoliennes et sur les énergies alternatives. Alors, il y a un auditeur qui réagit. Le professeur Pellerin n'était pas obligé de faire sa déclaration.
Il l'a pas fait.
S'il a obéi à des ordres, il a imbécile. Sa lâcheté a mis en péril des millions de Français. Non, il l'a pas fait, c'est ce que vous venez de dire. Non,
voilà,
c'est
donc je voudrais redire une deuxième fois que cet auditeur a mal écouté ce qu'on a dit. Le professeur Pellerin n'a jamais
dit
que le nuage s'est arrêté aux frontières. Ce sont les journalistes qui l'ont dit et les antinucléaires qui l'ont répété en boucle pendant des années. Le professeur Pellerin n'a jamais dit ça et a d'ailleurs gagné tous les procès en diffamation qu'il a fait quand
il était en retraite. Alors, il y a un contradicteur... mais qui ne souhaite pas qu'on donne son nom, et c'est donc un contradicteur anonyme, qui nous dit que le nucléaire est une technologie du passé, ça je suis pas convaincu, extrêmement dangereuse, très coûteuse, le prix réel, alors ça il faut qu'on en parle justement, le prix réel du démantèlement n'est jamais évoqué, mais on va en parler justement, qui crée des déchets très problématiques. Écoutez, votre invité, le nucléaire est sûr jusqu'à l'accident, et là, les experts nous racontent que ça n'aurait jamais dû avoir lieu, et pourtant il a eu lieu. Exemple, Tchernobyl, Fukushima, etc. Votre invité pro-nucléaire semble avoir oublié que la zone de Tchernobyl est devenue une zone interdite. Ben ça, on ne le conteste pas, mais bon, vous êtes pris mise en question, en cause, mais je peux tout de même répondre aussi que la circulation automobile donne lieu à beaucoup plus d'accidents, à beaucoup plus de morts que le nucléaire, et chaque année sur la planète. Et c'est la rançon du progrès, hein, on n'y peut rien.
Je pense que les coups de grisou ont fait beaucoup de morts aussi.
Oui, absolument. Dans l'industrie charbonnière dans le monde, il y a de l'ordre de 10 000 morts par an, et souvent ce sont des morts absolument atroces, avec des dégénérescences pulmonaires, où on n'a plus d'oxygène, on n'arrive plus à respirer, ou des coups de grisou qui faussent des pères de famille, et il y en a 10 000 par an. Dans le nucléaire, il n'y a pas 10 000 morts par an.
Non, il n'y a pas.
Et puis, il y a quelques plateformes pétrolières qui t'entends brûlent.
Oui, voilà, ça brûle, ça explose, ça coule, enfin bon.
Il y a 4000 morts en France sur les routes et il y a 20000 morts à la domicile.
Et regardez le nombre de guerres qui sont faites au nom du pétrole et de l'approvisionnement en énergie.
Exact.
Et là, c'est un nombre de morts encore plus considérable.
Alors, le prix du démantèlement, ça, on va l'évoquer après, parce qu'on va parler de Fukushima. Les accidents, il n'y en a que 3 au monde. Bon, alors c'est vrai que la zone de Tchernobyl est contaminée, mais enfin, il y a quand même des animaux qui y habitent, d'ailleurs. La vie n'a pas
disparu. Oui, d'ailleurs, il y a même plus d'animaux qu'avant. C'est une espèce de réserve de vie sauvage extraordinaire. Pour une raison simple, c'est que comme tout le monde a très peur de la radioactivité, c'est le seul endroit en Union soviétique où il n'y ait pas de braconnage.
Ah, oui.
Et donc, les biches, les élans, les cerfs et autres animaux, des sangliers, se portent à merveille dans cette zone-là. Il y en a beaucoup plus qu'ailleurs parce que personne ne les pourchasse.
Alors, avant de passer à Fukushima, Pascal Renardet, est-ce que le risque d'accident vous terrifie, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez menacé par le nucléaire?
Absolument pas, non. Absolument pas. Le nucléaire, bon, ayant travaillé quelques années à la Kojima, nous étions contrôlés, nous avons toujours travaillé en dessous de la dose, comme a expliqué Monsieur Combi. Je n'ai pas travaillé dans une centrale nucléaire, mais je crois que les conditions de travail sont exactement les mêmes que celles dans les mines. Que celles dans les mines.
Ouais.
Voilà, donc le nucléaire, bon, pour d'autres raisons, le nucléaire est la, pour moi la seule solution qui règle nos problèmes de l'énergie. Hein, et que...
c'est le problème, c'est que nous n'avons pas d'autres sources d'énergie efficaces. Si on avait une source d'énergie miraculeuse, sans danger, gratuite, bien sûr, je regarderais le nucléaire avec méfiance. Mais il n'y a pas de possibilité autre compte tenu de l'accroissement de la population mondiale, des besoins énergétiques. Il faut quand même rappeler qu'on était 1 milliard sur Terre en 1900, que nous sommes 7 milliards et demi, et que le monde est appelé à se développer indéfiniment et à consommer de plus en plus d'énergie. Donc je ne vois pas d'alternative possible. C'est pas qu'on adore le nucléaire, mais enfin c'est tout de même aussi une source d'énergie intéressante. Alors, il y a toujours le même auditeur qui est furieux, qui nous dit que Pellerin n'a pas dit que le nuage s'était arrêté à la frontière, mais il a dit que c'était sans danger. Il est donc
ça, c'est exact.
Alors, et oui, enfin, bon, responsable de quoi? Les gens sont pas morts en masse non plus. Bon,
c'est ça.
Il est responsable, il a dit que c'était sans danger. Moi, je peux dire qu'aussi que la circulation automobile me paraît sans danger, pendant il y a 3000 morts par an. Bon, c'était son opinion. Bon, je vois pas en quoi il est criminel pour avoir dire que c'était sans danger. C'est vrai que moi, j'ai connu Tchernobyl, j'y étais à Paris. Bon, je suis toujours vivant. Alors, bon, ils sont contents, d'autres éditeurs sont très contents. Que pensent tous ces éminents scientifiques du manque de sensibilisation de la population à une économie, à une économe énergie sur tous les points de sa consommation quotidienne? Voilà une idée éminemment écologiste. Bah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, oui.
Alors,
c'est une énergie très,
oui,
bah,
je pense que
très économique.
On peut être que pour, bien sûr. Je pense que les économies d'énergie, ou ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de gaspiller une ressource qui est précieuse. On a beaucoup de chance d'avoir l'énergie comme on l'a aujourd'hui. Nos parents, nos grands-parents n'en avaient pas autant. Et pas aussi bien. Et en ce qui me concerne, j'ai construit une maison passive et positive en énergie. J'habite en banlieue parisienne, pas très loin d'ici, à Houille. Et sans jeu de mots. et c'est vrai qu'on peut faire des maisons économes, et je pense qu'il faut le faire. Donc ça, c'est le bon côté.
À propos de nos grands-parents, il y a des petites anecdotes qu'il faut savoir quand même. Pourquoi est-ce que dans le temps, nos grands-parents ne sortaient pas dans Paris sans porter le chapeau?
Oui.
C'est parce qu'il y avait toutes les suies qui retombaient.
Oui,
toutes les suies du chauffage au charbon, du chauffage au bois. Et tout ça, ça retombait. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça.
Oui, c'est pour ça qu'on porte plus le chapeau.
Absolument. Oui, c'est beaucoup plus propre.
Aussi simple que ça.
Je crois que c'était pour pas prendre froid en hiver.
Ça aussi.
Ça, vous pouvez toujours porter le chapeau pour ça,
oui,
si
pour
vous
ça,
voulez.
Oui.
Mais
oui.
L'origine, c'était ça. C'était pour pas récupérer.
Oui, c'était très bien.
Les suies qui retombaient partout.
Voilà. Et Paris était les bâtiments à Paris, les façades des bâtiments étaient
noirs,
tout noirs. Ils étaient noirs. Il fallait régulièrement les nettoyer.
Ils le sont aussi aujourd'hui.
Ils le sont toujours, mais beaucoup moins.
Du gasoil, un petit peu.
Du gasoil à cause des moisissures qui se mettent avec le temps. Mais beaucoup moins qu'autrefois.
Alors, il faut qu'on parle maintenant, mais rapidement peut-être, de Fukushima pour pouvoir aborder l'autre question, celle du coût de l'énergie atomique.
Alors, Fukushima, c'est très différent de Tchernobyl, déjà par le déclenchement de l'accident. Une dernière parenthèse sur Tchernobyl. Tchernobyl, c'était l'accident le pire qu'on puisse avoir, c'est-à-dire le réacteur qui on perd le contrôle, il s'emballe, il brûle, il fond, et pas d'enceinte de confinement, donc tout est rejeté ou presque dans l'environnement. Donc c'est vraiment l'accident le pire. C'est un petit peu, pour prendre une image, comme quelqu'un qui conduirait une voiture, mais la voiture n'a pas été révisée, n'a pas de frein, est une vieille guimbarde d'il y a 30 ans, et on va la conduire à 200 km/h sur une petite route de montagne mal entretenue avec des trous le câble d'accélérateur coincé à fond, et le chauffeur a pris soin
de
vider une bouteille de whisky ou de vodka avant de partir et ne met pas sa ceinture de sécurité. Donc c'est-à-dire qu'on fait toutes les erreurs l'une après l'autre, et il faut pas s'étonner d'avoir un accident évidemment à ce moment-là. Donc ça, c'est Tchernobyl.
Mais j'avais entendu dire
Tchernobyl est un réacteur qui était instable par sa conception. Et donc, il fallait pas le conduire d'une certaine manière, sinon il divergeait complètement, grave. Et ce jour-là, il faisait un test, qui était un test interdit par les règles de conduite du réacteur, qui consistait justement à l'emmener dans son domaine instable pour voir ce qui se passe quand on fait ça.
Non, ils ont fait ça.
Ils ont fait ça.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure.
Évidemment, ils ont fait un test qui était
une expérience
interdite.
Mais qui est-ce qui a
décidé
de faire ce test?
Et certains des gens à Moscou qui étaient pas très au courant de comment il fallait faire fonctionner ce réacteur. Et certains des ingénieurs de la centrale ont dit, il ne faut pas faire ce test. Il est dangereux.
Ça va mal tourner.
Il est interdit par les règles de conduite du réacteur. On leur a demandé de rester chez eux ce jour-là, et ils ont fait le test quand même, qui consistait à voir ce qui se passe quand on éteint le réacteur. en le laissant tourner sur sa propre turbine en étant coupé du réseau pour voir s'il arrive à s'auto-alimenter. Mais en faisant ça, on l'emmenait dans la zone instable.
Et c'est ce qui est arrivé.
Ce qui était interdit.
Et c'est ça qui s'est passé.
Et c'est ça qui s'est passé. Donc ils ont vu ce qu'ils ont vu. C'était un test idiot. Et
pour pouvoir,
et il faut préciser que pour pouvoir faire le test, parce que même si c'était un réacteur de qualité soviétique un peu moins bon que les nôtres, malgré tout, pour pouvoir faire le test, il y avait quand même des systèmes de sécurité. Ils ont dû débrancher 6 systèmes de sécurité différents, dont un seul aurait suffi à éviter, éviter la catastrophe.
Mais est-ce que les gens qui ont décidé ça ont été sanctionnés ensuite?
Écoutez,
l'histoire ne le dit pas.
L'histoire ne le dit pas, et j'étais pas dans le réacteur ce soir-là. Mais je crois qu'ils ont tous eu, ils ont été sanctionnés parce qu'il s'est passé de toute façon. Et les réacteurs russes et le nucléaire russe a été lourdement sanctionné. D'ailleurs, depuis, ils ont quand même compris la leçon. Ils construisent plus du tout ce genre de réacteur.
Ils en vendent beaucoup moins aussi.
Et ils en vendent beaucoup plus. Détrompez-vous.
Ah oui.
Leurs nouveaux, mais plus des comme ça.
Ah oui, voilà.
C'est-à-dire qu'ils ont encore. Il y avait une trentaine de réacteurs de type RBMK. Hein, c'est-à-dire comme ceux de Tchernobyl, ils en ont encore une quinzaine en fonctionnement dans différents pays. Donc, mais ils les ont améliorés avec des règles de conduite encore plus fortes. Ils ont rajouté, ils ont changé l'électronique, ils ont mis d'autres protections, etc. Mais il y en a encore quand même un certain nombre qui fonctionnent encore. Par contre, les nouveaux réacteurs qui sont construits par les Russes et qu'ils exportent beaucoup mieux que les nôtres aujourd'hui, puisque dans différents pays, c'est les Russes qui vendent. En Turquie... en Asie, etc., ils vendent beaucoup plus de réacteurs que nous.
En Iran.
Et ce sont des réacteurs qui sont tout à fait similaires et comparables aux nôtres. Maintenant, on peut discuter, dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, bien sûr, mais ils ont des enceintes de confinement, ce ne sont pas des réacteurs au graphite, et ils sont conformes aux standards de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la sûreté des réacteurs les plus modernes. Donc les nouveaux réacteurs russes sont beaucoup meilleurs que ceux qu'ils avaient à l'époque, c'est pas du tout les mêmes. Mais ils exportent, détrompez-vous, ils exportent plutôt bien.
Alors, donc, Fukushima, alors là, c'est un autre type d'accident.
Alors, Fukushima, c'est différent. Ça. Fukushima,
c'est une zone,
le déclenchement, c'est ce n'est pas une expérience stupide et interdite. Le déclenchement, c'est une double catastrophe naturelle qui survient sur ce site le même jour, à une demi-heure, un quart d'heure d'écart. Vous avez d'abord le tremblement de terre, qui est le tremblement de terre historiquement le plus fort qu'on ait vu au Japon depuis des siècles.
Ah oui.
Donc, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait extraordinaire au sens littéral du mot.
Oui.
C'est-à-dire que quand on conçoit un réacteur nucléaire, on prend l'accident le pire qui puisse arriver.
Oui.
Notamment pour
qui est arrivé
historiquement et en remontant plusieurs millénaires en arrière s'il le faut. Donc, et par rapport à cet accident-là, on suppose qu'il va en arriver un autre encore plus grave, donc un tremblement de terre encore plus fort ou un tsunami encore plus haut. Et c'est ce qu'on appelle les règles de dimensionnement des réacteurs qui doivent résister au plus fort événement historique plus une marge de sécurité. Donc il n'y a pas évidemment d'autre manière de bien concevoir une usine que de fonctionner comme ça. Simplement, donc à Fukushima, d'abord le tremblement de terre a été extrêmement bien encaissé par le réacteur qui s'est mis en sécurité tout seul, sans intervention humaine, comme il était conçu pour faire. Donc les réacteurs, ce sont, vous avez à Fukushima, vous avez 6 réacteurs sur Fukushima, le site accidenté. Et donc les 6 réacteurs, il y en avait un ou deux qui étaient arrêtés, et les autres se sont arrêtés spontanément, sans intervention humaine, puisqu'il y a des détecteurs de tremblement de terre, tout seul. Et le problème, ça a été le tsunami qui est venu peu de temps après, la vague. Et la vague était... la centrale était conçue pour un tsunami d'environ 5 mètres, plus quelques mètres de marge, donc ils avaient prévu pour 7-8 mètres. Et malheureusement, ou 10 mètres, et la vague a fait 15 mètres. Donc ils étaient submergés par une vague qui faisait plusieurs étages de hauteur sur le site. Et évidemment, aucun site industriel ne peut résister à ça, même pas un site nucléaire. C'est
alors
pas
il
n'aurait
pas fallu peut-être implanter la centrale à cet endroit-là.
Alors si celle-ci, ils construisaient la centrale aujourd'hui, évidemment, ils la feraient sur une plateforme beaucoup plus haute.
Et plus éloignée.
Ceci dit, quand on regarde les photos à ce moment-là, d'abord, si j'ai bien compris, c'était le cumul des deux problèmes naturels, le tremblement de terre 1, Et le tsunami 2. Mais quand on regarde les photos, la centrale nucléaire était au bord de l'eau, en bas d'une falaise. Ils auraient mis cette même centrale
sur la falaise.
Oui, absolument. Alors, ça sera pas
et le problème serait pareil.
Et d'ailleurs, sur les 6 réacteurs, il y avait les 4 plus anciens qui étaient sur la plateforme basse, et les 2 plus récents qu'ils avaient construits beaucoup plus tardivement sont sur une plateforme beaucoup plus haute, effectivement, et n'ont absolument pas été touchés par le tsunami. Mais et ils les ont arrêtés quand même parce que ça s'appelle Fukushima et qu'ils ont décidé d'arrêter tout le site de Fukushima pour des raisons symboliques.
Est-ce que dans les réacteurs qui sont en France et qui fonctionnent, il y a un risque d'accident comparable
aujourd'hui, compte tenu des mesures de sécurité que l'on a prises, sur des centrales anciennes, comme Fessenheim, par exemple, ou Chinon, ou d'autres encore. Il y en a une, d'ailleurs, qui est en cours de démantèlement, qui est en Bretagne, et qui est toujours pas démantelée, parce qu'il y a un problème du coût du démantèlement qu'on va aborder. Mais quel est le danger aujourd'hui? Est-ce que, je crois, on en parlait hier avec Pascal Renardet, le risque de voir de tels accidents survenir en France est très faible.
Alors, on va prendre les sujets un par un.
Pas inexistant, mais très faible.
Donc, les accidents. Alors les accidents, bien sûr, le risque existe. Quand on a 1000 mégawatts, si on perd le contrôle, le réacteur peut fondre, il peut chauffer, puis fondre. Et donc, le risque existe, mais la grande différence, c'est l'enceinte de confinement, oui, comme on l'a vu. Oui. Alors, on a parlé de l'enceinte de confinement instruite à la grande, qui a évité des irradiations du public. On a vu qu'à Tchernobyl, il n'y en avait pas. Et du coup, il y a eu des dégâts, y compris dans l'environnement aux alentours.
Mais oui, mais une catastrophe due à une ânerie.
À une ânerie phénoménale. Mais il n'y avait pas d'enceinte de confinement. Oui.
Voilà.
Bon. À Fukushima, il y avait une enceinte de confinement, mais c'était une enceinte de confinement des années 50 et 60, des premiers réacteurs très anciens, qui ne faisaient pas un mètre de béton armé d'épaisseur comme ceux d'aujourd'hui. C'était une enceinte qui faisait 10 centimètres d'épaisseur en acier. Et cette enceinte, malgré sa très faible épaisseur par rapport à la sec de condensation de nos réacteurs, a néanmoins en grande partie rempli son rôle. Parce que lorsque les réacteurs ont fondu dès le vendredi soir, le 11 mars, le jour de l'accident, eh bien, il y avait les quatre enceintes de confinement, donc il y avait pas de radioactivité sur le site. Ils étaient obligés de faire des relâchements de vapeur pour pas que la pression monte dans les réacteurs. Donc cette vapeur est légèrement radioactive parce qu'ils n'ont pas des filtres à sable comme on a nous sur nos centrales en France. Donc ils rejettent un petit peu de vapeur radioactive, mais c'est des doses relativement faibles. Et jusqu'au mardi d'après, c'est-à-dire les quatre premiers jours, le site était donc quasiment pas radioactif parce que les quatre enceintes de confinement remplissaient parfaitement leur fonction, étaient étanches. Et ce qui s'est passé, c'est que mardi matin, il y a eu une des quatre enceintes de confinement qui s'est mise à fuiter parce que la pression a trop monté. Ils n'ont pas réussi à refroidir le réacteur comme il faut. Et la pression est montée et l'enceinte de confinement, il y a eu une brèche. Et donc là, il y a des quantités extrêmement importantes, comme à Tchernobyl, de radioactivité qui sont relâchées d'un coup dans l'atmosphère. Mais c'était une petite enceinte de confinement. Et ce qu'il faut préciser, c'est que pendant ces quatre jours, les autorités japonaises avaient à juste titre décidé d'évacuer la population dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Et donc, la population civile n'a absolument pas été soumise à cette radioactivité puisque l'évacuation était terminée quand il y a eu la brèche dans le réacteur. Donc, il n'y a pas d'irradiation des populations civiles. Et on peut donc dire, et ça a été dit d'ailleurs dès 2011, on peut affirmer qu'il n'y a pas de cancer possible dans la population civile à cause de Fukushima.
Bien, alors nous avons vu donc la question des déchets rapidement, nous avons vu la question des accidents assez rapidement, même si c'était quand même assez long, et merci de ces détails extrêmement intéressants. En tout cas, pour Tchernobyl, c'est passionnant d'avoir...
Mais c'est intéressant de savoir que tous ces accidents sont issus d'erreurs et d'âneries de bon sens.
On n'a pas répondu à votre question, est-ce que ça peut arriver en France?
Oui, alors, parce qu'après, il faut qu'on parle... Parce que le temps tourne très vite et il faut qu'on parle d'autres choses encore et surtout du coût du démantèlement qui est une question qui est brandie actuellement par les antinucléaires comme un argument massu. Il faut qu'on en parle. Mais parler, du nouveau risque d'accident en France.
Alors, est-ce que ça peut arriver en France?
Quelles sont les centrales potentiellement dangereuses à votre avis?
Autant je suis pour le nucléaire, autant à cette question-là, je réponds oui. Non seulement ça peut arriver en France, mais je suis persuadé que ça arrivera. Parce que c'est une question de temps et de probabilité. Tout accident qui peut arriver, arrivera. C'est le principe de Peters, hein.
C'est ça.
Toute catastrophe qui peut survenir, surviendra. Oui. Donc on va avoir un accident en France du même ordre que celui de Sruimagaland, c'est-à-dire un réacteur qui fond, mais comme il y a un confinement qui est prévu et qui résiste même à un tremblement de terre, même à une grosse vague, même à toutes sortes de choses, eh bien, ça va être la panique. Parce qu'imaginez, dans les médias internationaux, accident nucléaire en France.
Oui.
Vous voyez un peu l'attitude des télévisions. Hein.
Oui, oui.
Et donc, ça va être la panique dans les médias. Il va y avoir peut-être des mouvements de foule difficiles à contenir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis persuadé que quand on analysera à froid, quelques années plus tard, les conséquences de cet accident, eh bien, on verra que c'est comme à Sruimagaland et comme à Fukushima. La radioactivité aura été confinée. Fukushima n'a pas été confinée totalement, hein, puisqu'il y en a des quatre
en
partie, et ça a permis de protéger la population, d'évacuer les gens.
D'accord.
Mais ça va être comme Sruimagaland, c'est-à-dire très peu de radioactivité finalement rejetée, donc pas de problème massif pour la santé publique.
Oui.
Voilà. Par contre, je pense qu'on va avoir une fonte de réacteurs un jour, parce que ça peut arriver.
Et quelles sont, à votre avis...
Même si on fait tout pour que ça n'arrive pas, évidemment, et d'ailleurs en 50 ans, sur 60 réacteurs, ça n'est pas arrivé.
Est-ce que sur les 60 réacteurs, certains vous paraissent plus dangereux que d'autres en raison de leur ancienneté, de leur usure,
écoutez,
de leur situation géographique?
Alors, on pourrait rentrer dans les détails et dire, oui, telle chose est un peu plus ou un peu moins dangereuse que telle autre.
Par exemple, Fessenheim est-il dangereux?
Non, Fessenheim n'est pas plus dangereux que les autres réacteurs, même plutôt moins, puisque Fessenheim a déjà subi une grande partie de ce qu'on appelle le grand carénage et des changements de composants qui permettent au contraire d'améliorer sa sécurité.
Chinon,
Donc, nos réacteurs, ils ont tous, vous savez, construits sur le même modèle.
Oui.
Ça a été la grande force du programme nucléaire français. C'est un programme avec de standardisation.
Ah oui.
Donc, on a fonctionné par palier. Il y avait le palier 900 mégawatts. Donc, aujourd'hui, on a encore une trentaine de réacteurs de 900 mégawatts. Ensuite, il y avait le réacteur de 1200, 1300 mégawatts. Ensuite, 1450 mégawatts. Et maintenant, c'est 1600 mégawatts avec l'EPR. Et donc, chaque tranche est absolument standard. Ce qui fait que ça permet de faire des économies sur la fabrication des pièces, mais pas sur la sûreté, bien sûr, on fait la sûreté maximum. Et donc, ça permet d'avoir un parc nucléaire qui fonctionne dans des très bonnes conditions, justement, de sûreté. Et donc, ils sont tous de la même technologie. Ils ont tous une épaisse enceinte de confinement de au moins un mètre de béton armé, d'épaisseur fortement armée. Donc, ils sont à peu près similaires, finalement, les uns aux autres. Et ils ont tous été construits à une quinzaine d'années près, à peu près au même moment. Donc, on a eu en France des vieux réacteurs où j'aurais pu répondre à cette question en disant oui. Les vieux réacteurs graphite-gaz qu'on avait en France dans les années 70, 80, qui ont été arrêtés à peu près à ce moment-là, dans les années 90, les derniers, eh bien, les vieux réacteurs graphite-gaz étaient quand même beaucoup moins sûrs au niveau enceinte de confinement. Ils étaient beaucoup moins sûrs au niveau de leurs règles de fonctionnement aussi. Et puis, c'était réacteurs au graphite. Mais ceux-là, on n'en a plus depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, les réacteurs, le parc qu'on a est relativement homogène. Il est extrêmement sûr et bien surveillé. Donc, pour ma part, j'ai relativement confiance. Mais on aura peut-être un jour une fonte de réacteurs et dont on verra qu'il n'y a pas eu finalement de conséquences, parce que premièrement, on a cette grosse et épaisse enceinte de confinement qui protège. Deuxièmement, on a, au cas où on doit, comme à Fukushima, relâcher la vapeur parce qu'il y a trop de pression dans le bâtiment, on a des filtres à sable qui filtrent en gros 99% de la radioactivité avant de la rejeter. Et donc, c'est des rejets de très faible intensité, s'il devait y en avoir. Et on a des recombineurs d'hydrogène qui permettent, en cas d'émission d'hydrogène dans l'enceinte de confinement, pour éviter cette explosion d'hydrogène qu'on a vue à Fukushima. Les Japonais n'avaient pas de recombineurs au platine, ils n'avaient pas de dispositif anti-hydrogène, et donc alors qu'en France on a les dispositifs qui étaient déjà d'ailleurs présents et mis en place, même avant Fukushima. Et donc dans un certain nombre de réacteurs aux États-Unis ou dans d'autres pays, ou au Japon, ils ont décidé maintenant de mettre ces dispositifs de captation d'hydrogène et de neutralisation d'hydrogène qu'ils n'avaient pas avant.
Bien, alors on va devoir interrompre l'émission parce qu'il y a là une petite pause, toujours à 19h30. Alors il y a plus de deux auditeurs qui nous parlent d'un livre de Monsieur Bortoli qui s'intitule La mort de Staline, qui fait où on fait état d'un autre accident avant, bien avant Tchernobyl, bien avant l'accident de 79. Je ne sais pas si cet accident a véritablement existé.
Oui, il y a eu un accident
dans les années 50.
Qui était plus chimique, mais où il y a eu des gros kistimes avec des gros relâchements de radioactivité.
Voilà, dans les années 50, à l'époque de Staline.
Absolument.
À l'époque
je crois
de
que
Staline.
C'était 1957, il me semble.
Voilà, donc, alors on va s'interrompre pendant quelques minutes pour que notre technicien puisse faire ses annonces. Et j'aurai moi-même quelques annonces à faire.
Merci messieurs, on vous retrouve dans quelques instants donc, et sachez que cette émission sera rediffusée jeudi dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Restez bien à l'écoute de Radio Courtoisie. Voici un message de Jean Madiran, écrivain, fondateur du quotidien Présent.
J'ai une grande estime et une vive reconnaissance pour Radio Courtoisie. Radio Courtoisie est la seule radio de notre famille intellectuelle et politique depuis une bonne vingtaine d'années. Parallèlement, je travaille depuis 28 ans au seul journal quotidien qui soit imprimé pour cette famille. Nous sommes dans une situation parfaitement analogue, avec cependant de mon côté, hélas, une difficulté supplémentaire. Le nombre de gens qui lisent est en diminution constante et ceux qui lisent encore passent de moins en moins de temps à lire. À mon estime pour Radio Courtoisie, j'ajoute une vive reconnaissance pour le fait que depuis plusieurs années, Radio Courtoisie m'invite deux ou trois fois par an. Merci Radio Courtoisie.
C'était un message de Jean Madiran, écrivain, fondateur du quotidien Présent. Soutenez Radio Courtoisie, adhérez à notre association, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou rendez-vous sur radiocourtoisie.fr.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, en DAB+, et sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, et pour le monde entier, par Internet, sur radiocourtoisie.fr.
À 21h tout à l'heure, le bulletin de réinformation. À 21h30 et en direct, le libre journal du Monde de la Foi, dirigé par Jean Christaki de Germain. Enfin, à 23h, les nuits musicales en compagnie de Benoît, la première de Mahler. Et puis tout de suite, toujours en direct, la seconde partie du Libre Journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafond. Merci d'écouter Radio Courtoisie, les 19h30.
Radio Courtoisie, la seule radio vraiment libre.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal du droit et des libertés, dirigé par Olivier Tournafond, diffusé en direct mardi 26 septembre 2017 de 18h à 21h et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bien, alors chers auditeurs, nous reprenons notre émission sur l'énergie et les sources d'énergie. Alors nous avons beaucoup de réactions d'auditeurs, certains sont très très contents, d'autres sont furieux. C'est logique, ce sont des sujets controversés, la science progresse par la controverse. Donc certains auditeurs nous reprochent d'avoir invité des pro-nucléaires, mais d'autres auditeurs nous reprochent aussi d'avoir invité dans des anti-nucléaires. Alors, il se trouve que ce soir, les anti-nucléaires n'ont pas voulu venir, ils m'ont tous fait faux bond, ils ont eu peur de parler sur cette antenne, pestiférée, dangereuse, eh bien tant pis pour eux, donc leurs arguments ne seront pas pris en compte, mais on essaiera quand même de faire la part des choses. Là nous sommes avec Bruno Combi, qui est un ingénieur polytechnicien spécialiste de l'énergie nucléaire, qui est un grand spécialiste de la question, avec Pascal Renardet, qui est ancien élève de l'école des mines, également scientifique, le prince de Bourbon-Parme, votre serviteur Olivier Tournafond. Alors, je dois, avant de redémarrer l'émission, faire juste deux annonces que l'on m'a demandé. D'abord, Dominique Paoli, la présidente de Radio Courtoisie, nous demande de bien vouloir noter qu'il y aura une messe annuelle pour les défunts de Radio Courtoisie, mais rassurez-vous, ils ne sont pas morts à Tchernobyl. Hein. La messe sera célébrée par la Bête Noire le samedi 14 octobre à 11h à l'église Saint-Eugène, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Samedi 14 octobre à 11h, église Saint-Eugène, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Autre annonce que je dois faire, le 1er octobre, l'UDELSIM, qui est une association de défense pour la liberté de circuler, organise un grand rassemblement pour protester contre les interdictions de circuler de Madame Hidalgo, 1er octobre au château de Vincennes, ainsi qu'à la cascade de Boulogne, à partir de 10h. Soyez nombreux pour défendre la liberté de circuler. Alors, maintenant, le prince de Bourbon-Parme voudrait, je crois, poser une question embarrassante.
Il n'y a jamais de questions embarrassantes. Voilà. Il y a des réponses embarrassantes.
Alors, encore un auditeur qui dit un énorme merci pour Radio Courtoisie pour défendre l'énergie nucléaire. Nous essayons surtout de faire la part des choses. Voilà. Alors, nous sommes ni pour ni contre, nous sommes des gens de bon sens. Si l'énergie atomique est utile, il faut utiliser l'énergie atomique.
Voilà. Alors, vous parliez, professeur, tout à l'heure du démantèlement. Alors, voilà. De ces centrales. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, et j'ai posé plusieurs fois la question autour de moi, et j'ai jamais eu deux fois la même réponse quand j'ai une réponse aussi rare que ça. Voilà. Alors, je suis pas un économiste, mais j'ai roulé ma bosse à droite et à gauche. Et je dirais qu'en économie, ou quand vous avez une entreprise, vous avez des camions de livraison. Et ben, ces camions de livraison, quand vous les achetez, ils sont tout neufs, ils sont tout beaux. Et puis, votre trésorerie, votre comptabilité va faire que, au fur et à mesure que les kilomètres vont passer, ces camions vont devenir obsolètes ou leur durée de vie va commencer à cesser. Mais tout au long de leur vie, la trésorerie, le comptable est là pour faire ça, pour faire de la trésorerie, pour pouvoir vendre le camion, parce qu'on peut toujours le revendre, que ça peut servir à quelqu'un, et puis en racheter un neuf. Donc, tout ça, c'est le béaba, qui que ce soit qui a une entreprise, connaît ça, et on apprend ça les premières années en économie, on n'a même pas besoin d'aller à l'université pour ça. Et alors, ma question est la suivante, c'est les centrales nucléaires, on les a construites, mais d'une façon comptable, il y a forcément quelqu'un qui, à un moment quelconque, a pensé à tout ça.
C'est qu'il fallait
les démonter un jour. Il va falloir les entretenir. Il va falloir peut-être changer quelques pièces. Tout ça a dû, d'une façon quelconque, dans la comptabilité, être pris en compte. Maintenant, comme on nous dit que ça coûte des milliards et que cet argent n'existe pas et que c'est pour ça qu'il va falloir taxer tous les consommateurs d'électricité de France pour pouvoir démanteler toutes ces centrales nucléaires et que ça va nous coûter une fortune. Et que c'est pour ça que nos factures augmentent tous les mois, oui. Je me dis, mais si ça a été trésoré, s'il y a eu une trésorerie pour ça à un moment quelconque, où est passé l'argent? Et si on n'y a pas pensé, il faut peut-être taper sur les doigts de quelqu'un, parce que c'est le B à bas en économie, tout ça.
Alors, j'ai fourni justement hier à Bruno Combi le fameux rapport de la Cour des comptes, que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire parce que je l'ai eu pendant quelques heures. Il y a eu aussi un rapport parlementaire, je crois, de l'Assemblée nationale. Alors, le fait est qu'il y a toute une controverse aujourd'hui. Certains expliquent que le coût du démantèlement n'aurait pas été du tout calculé ou très grossièrement minimisé, parce qu'on n'avait pas tenu compte de la spécificité de l'opération.
Ça, c'est un petit peu prendre les gens pour
on
des...
Ce qui est possible, après tout, quand je vois l'incurie de l'État qui nous gouverne, après tout, ça ne m'étonnerait pas à outre mesure, que le coût du démantèlement serait 20 fois plus que l'estimation de la commission Péon, qui est à l'origine du parc nucléaire français actuellement en exploitation, et qu'aujourd'hui, EDF reconnaît être face à une difficulté technique non résolue à l'échelle industrielle. Pour Superphénix, on me dit que le coût est de 995 millions d'euros, peut-être 2 milliards d'euros, à cause de la technique du sodium très complexe est effectivement dangereuse, et parce que c'est un liquide hautement inflammable. Bon, donc en fait, on nous dit ce n'est pas une énergie du tout économique parce que on n'a pas tenu compte du coût du démantèlement, et celui-ci est absolument prohibitif. Vous seul pouvez donner...
Dans un cours d'économie, c'est zéro, l'élève à zéro, sur
ce
coup-là.
Alors, il faut que Bruno Combi, qui est un spécialiste, souvent nous apporter des éléments de réponse, mais peut-être que Pascal Renardet a des idées aussi là-dessus, parce que c'est un scientifique. Pascal Renardet.
C'est que dans les exploitations minières, on fait des provisions pour remise en état du site. Et l'argent pour cette remise en état du site est mis sur un compte du trésor public.
Ouais.
Et quand on fait la remise en état du site, eh bien, on pioche sur ce fonds et tout va bien.
Donc, la question pernicieuse, c'est où est passé l'argent?
Bah oui, mais ça, c'est une question qu'on pourrait poser dans beaucoup d'autres domaines, d'ailleurs. Hein.
Oui.
Mais alors, voilà.
Pour vous expliquer un petit peu cette question.
On va avoir votre opinion.
Voilà. Vous dire des réponses à plusieurs niveaux. D'abord, il est tout à fait inexact de dire que ça n'a pas été prévu du tout, que rien n'a été fait. C'est tout à fait faux. Depuis le début, il a été prévu dans les règles comptables qui s'appliquent au nucléaire, justement, il a été prévu de faire ce qu'on appelle des provisions sous plan technique comptable en vue du démantèlement futur. Donc d'abord, on peut bien voir que c'est une des seules industries qui fait des provisions comme ça sur le futur, parce qu'il y a beaucoup de sites industriels, chimiques, polluants, où on pollue, puis à la fin de l'usine, on s'aperçoit qu'il y a une pollution et on ne sait pas quoi faire avec, et c'est la charge de la collectivité. Donc nucléaire, dès le départ, il a été considéré que c'était moralement, en quelque sorte, mieux de faire des provisions au fur et à mesure et de prévoir par avance ce démantèlement, y compris sur le plan comptable et financier. Donc c'est déjà différent de ce qui se faisait dans les autres domaines, et beaucoup mieux, sur le principe. Alors ensuite, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, évidemment, et il s'avère avec le temps que les normes qui s'appliquent au nucléaire se sont durcies avec le temps. C'est-à-dire qu'autrefois, On considérait que quelques becquerels, c'était pas très dangereux. Et puis maintenant, on fait la chasse au moindre becquerel et le tout avec des robots manipulés. Et donc forcément, quand on veut ne plus être exposé du tout à la radioactivité, qui pourtant existe partout dans la nature, mais ça c'est une autre discussion, on y viendra peut-être tout à l'heure. La radioactivité naturelle, c'est un sujet très intéressant, parce que c'est partout la radioactivité. Mais on a durci les normes à un point tel que ça rend la chose beaucoup plus onéreuse. Et donc les normes qui avaient été prévues au début, qui étaient moindres que celles qui s'appliquent aujourd'hui, forcément, comme on a augmenté la technique et le prix, eh bien les provisions initialement prévues sont moindres que celles qui seront nécessaires finalement, puisqu'entre-temps, on a beaucoup durci les normes. Donc ça, c'est pour comprendre pourquoi il y a moins que prévu. Alors il y a aussi eu un peu d'argent qui a été mis dans des placements peut-être un peu aventureux, industriel en Argentine ou ailleurs, mais bon, ça c'est relativement encore à la marge. Mais donc EDF, sur chaque kilowatt que vous achetez sur votre facture d'électricité, EDF met une provision qui sert pour les déchets nucléaires futurs. Et c'est une provision qui n'est pas du tout négligeable, ça a été prévu sur la base de 15% du prix de construction du réacteur. C'est-à-dire qu'on prend le prix que ça met à construire, c'est très cher un réacteur nucléaire quand même. Et on provisionne 15% de cette somme progressivement sur la vie du réacteur, et initialement c'était prévu sur 30 ou 40 ans, mais il s'avère que les réacteurs finalement durent plutôt 60 voire peut-être 80 ans aux États-Unis. Donc on va pouvoir provisionner pendant plus longtemps, donc ça va compenser en quelque sorte le fait que le montant était peut-être pas suffisant. Mais comme on va le provisionner pendant plus longtemps...
Puisqu'on utilise la centrale plus longtemps, on provisionne plus longtemps, donc ça couvre le coût, évidemment.
Voilà, c'est ça. Certains antinucléaires disent que on n'a aucune expérience, qu'on est en territoire inconnu, qu'on joue aux apprentis sorciers, etc. Bien évidemment que tous nos réacteurs nucléaires, nos 58 réacteurs du programme nucléaire français, ils sont tous en fonctionnement. Donc bien sûr, on n'a pas d'expérience de leur démantèlement, mais on sait quand même comment on va faire, on a une idée. C'est pas un métier extrêmement compliqué. Je peux vous expliquer en quelques mots si vous voulez.
Non, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je comprends ce que vous voulez dire.
Donc c'est tout à fait prévu du point de vue technique. On démonte d'abord toute la partie classique avec les turbines, etc.
Un argument d'un de nos correspondants qui n'a pas voulu intervenir à l'émission, je le souligne, c'est la centrale de Brennilis en Bretagne, dont le coût avait été estimé par la Cour des comptes à 482 millions d'euros, soit 20 fois plus que l'estimation de la commission Péon. Alors, pourquoi est-ce que cette centrale n'est toujours pas démontée alors qu'elle est arrêtée depuis 18 ans, je crois ?
Oui, alors écoutez...
Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est tellement compliqué ? Est-ce qu'on se heurte vraiment à des obstacles épouvantables et insurmontables ?
Les obstacles les pires, c'est quand les antinucléaires commencent à faire des procès à répétition pour tout bloquer. Ouais. Et dans le cas de Brennilis, il y a eu beaucoup de temps et d'années de perdu, justement à cause des procédures juridiques multiples intentées par des associations antinucléaires qui ont pour but de démontrer qu'il n'y a pas de solution nucléaire, donc de retarder le plus possible le démantèlement pour pouvoir...
La politique du pire.
C'est pour, à leur sens, démontrer qu'il n'y a pas de solution aux déchets nucléaires. La preuve, c'est que même après 18 ans, c'est toujours pas fini. Mais c'est à cause d'eux si c'est pas fini, puisqu'ils ont porté plainte pour bloquer le démantèlement. Oui. À plusieurs reprises. Donc c'est évidemment, ça fait prendre du temps.
Et voilà.
Parce que le juge ne sachant pas, si on dit, on attend.
Voilà.
Et donc à chaque fois on attend la conclusion de l'affaire d'avant. Et donc on perd énormément de temps à cause de ça, d'une manière inutile, et ça fait perdre beaucoup d'argent, parce que pendant ce temps-là, vous avez des équipes qui sont sur place, qui sont payées, qui ont des contrats pour faire le travail, qui peuvent pas travailler, donc on est obligé ensuite de la repayer une deuxième fois. Donc évidemment, ça gonfle le prix, ce qui est aussi le but des associations antinucléaires. Leur but, c'est de démontrer que c'est pas possible et que ça coûte une fortune. Donc ils y arrivent avec des bons avocats, et il y a des gens qui vous expliqueront qu'avec un bon avocat, vous arrivez à plaider à peu près n'importe quelle cause.
Alors, avant d'aborder d'autres questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. J'aimerais qu'on parle de la possibilité, et c'est pour ça qu'on va appeler peut-être le mathématicien Claude Brasseur, qui nous écoute peut-être en Belgique en ce moment, d'utiliser d'autres carburants que l'hydrogène ou le plutonium. Alors, on a parlé du fameux thorium liquide.
L'uranium.
Mais on a parlé du plutonium comme possibilité dans l'avenir aussi. Alors, est-ce que le thorium liquide est une possibilité ? Le sodium liquide aussi ? On a évoqué donc beaucoup de possibilité. Avant d'appeler au téléphone, je ne sais pas si le technicien me voit, mais il faudrait lui dire qu'on va téléphoner donc à Claude Brasseur. Est-ce que, monsieur Combi, vous qui êtes un spécialiste de nucléaire, est-ce que vous avez déjà étudié ces,
ces
questions. Oui, tout à fait. Alors d'abord, le thorium, pourquoi est-ce que c'est fondamentalement intéressant? Parce que c'est un des éléments radioactifs qu'on trouve dans la croûte terrestre, oui. Et qui est relativement abondant, puisqu'il y en a trois fois plus que l'uranium dans la croûte terrestre en moyenne. Ici, même dans le bassin parisien, on a 3 grammes par tonne d'uranium, donc c'est 3 parties par million à peu près. Et le thorium, grosso modo, il y en a le triple à peu près partout. Donc c'est une ressource qui est relativement abondante par rapport à l'uranium et qui a un pouvoir de générer de l'énergie qui est à peu près du même ordre de grandeur. Donc c'est potentiellement intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas développé jusqu'à maintenant et qu'à mon avis ça ne se développera pas de sitôt, sauf pour faire des prototypes, ce qu'à mon avis il faut faire, parce que c'est une des voies possibles. Vous savez, quand l'industrie nucléaire a commencé par les questions militaires avec le projet Manhattan à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les Américains avaient 3 voies pour fabriquer la bombe atomique. Ils avaient l'uranium-235, le plutonium-239 et il y avait le thorium également. Et donc, ils ont exploré les 3 voies pour faire la bombe, mais ce sont aussi les 3 principaux combustibles pour le nucléaire aujourd'hui et encore dans le futur. Donc, on n'a pas inventé grand-chose, en fait, depuis cette époque, si ce n'est que, au lieu de faire du nucléaire destructif, qui a pour but de tuer au mieux de terroriser des populations, l'idée, c'est de faire du nucléaire constructif qui soit au service des populations, ce qui est évidemment tout à fait différent et bien plus positif comme concept. Et donc, le thorium, il y en a beaucoup plus. Donc, ça, c'est son grand avantage. Par contre, il a des inconvénients. À savoir que le thorium n'est pas directement combustible. Il faut transformer le thorium en uranium, thorium 232 ou 233, en uranium 234. Et pour ça, ça se fait déjà dans le réacteur. Et donc, le combustible est radioactif avant qu'on le charge dans le réacteur. Donc, ça complique énormément les manutentions. Et donc, ce qu'on appelle le cycle du combustible est beaucoup plus compliqué que le cycle du combustible à uranium. Et ça conduit à irradier beaucoup plus les personnels qui travaillent dans les usines. Ça augmente les risques d'accident, même avant que le réacteur soit chargé. Il y a déjà un danger, puisque le combustible est déjà radioactif avant d'être mis dans le réacteur. Donc, ça complique beaucoup. Et c'est des réacteurs qui sont un peu compliqués et délicats à conduire. Donc, je pense, pour ma part, qu'on aura des quantités assez importantes d'uranium pas cher disponible et abondant, je pense que la filière plutonium et la filière thorium, qui sont des filières de rechange pour l'avenir et qui se développeront à un moment donné quand la ressource commencera à se raréfier. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin et c'est un peu plus compliqué comme technologie, un peu plus cher à construire. Donc, a priori, je pense que ça ne va pas se développer. Mais il y a une deuxième question dans la question qui est, comme vous disiez, le thorium liquide. Et donc, en fait, c'est pas le thorium liquide, c'est des sels, donc ce qu'on appelle réacteur à sel fondu.
C'est-à-dire
que dans nos réacteurs actuels, vous avez un réacteur, donc c'est une cuve en acier de 20 cm d'épaisseur qui fait environ 6-7 mètres de haut et 4-5 mètres de diamètre. Donc c'est une grosse cocotte minute, un réacteur nucléaire. Et dedans, on charge des tiges de combustible qui sont elles-mêmes métalliques, c'est du solide, sur toute la hauteur. Et puis dedans, on fait circuler un fluide qui peut être de l'eau ou du sodium ou autre chose, qui, d'une part, qui modère les neutrons et d'autre part, qui transporte la chaleur pour aller activer les turbines. Et donc, il y a d'autres types de réacteurs possibles qu'on appelle réacteurs à sel fondu, où le combustible est en fait fondu dans le liquide lui-même. Donc c'est pour ça qu'on appelle réacteur à sel fondu. Donc là, c'est des sels de thorium, par exemple, qui vont circuler dans le réacteur et donc c'est le combustible lui-même qui se refroidit et qui va directement alimenter des échangeurs, des turbines, etc.
Et alors derrière. Peut-être pourrait-on dire un mot aussi des sur...
Et donc c'est une technologie très différente dans son principe et qui possède, c'est vrai, des avantages possibles dans le futur. Il y a eu des prototypes de construits dans les années 50 et 60 qui ont tourné, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Et à l'époque, tous les scientifiques en ont conclu que c'était quand même plus simple de faire les réacteurs comme on les fait maintenant. Et donc, cette filière-là a été testée et abandonnée. Avec de bonnes raisons à l'époque. Maintenant, la question, c'est est-ce que le monde a changé? Et est-ce que ces raisons qui étaient bonnes à l'époque ne sont plus valables dans le futur?
Donc, nos ingénieurs trouvent d'autres moyens des produits qui étaient difficilement utilisables.
Ma position est une position attentiste. Il y avait des problèmes, notamment d'oxydation, c'est-à-dire que les sels fondus, c'est comme du sel de mer, ça va faire rouiller l'acier et toutes sortes de choses. Donc les sels fondus sont des sels extrêmement agressifs et corrosifs. Et donc, si on fait ça sur des cuves en acier, ça peut dégrader les aciers,
et les percer même.
Et les percer. Donc, bon, on a des aciers de meilleure qualité aujourd'hui que ce qu'on savait faire à l'époque. Donc, est-ce que tout ça est vraiment devenu possible? Je pense qu'il faut tester. Ça s'étudie, ça se teste. Donc, moi, je suis favorable à la construction de prototypes de réacteurs à sel fondu.
Oui.
Et d'ailleurs, il y a des réacteurs de ce type qui sont prévus dans ce qu'on appelle les réacteurs de quatrième génération, génération 4, qui est un programme international qui rassemble une quinzaine de pays les plus avancés sur le nucléaire dans le monde. Et qui se réunissent pour tester principalement 6 filières de réacteurs. Et donc, je pense qu'il faut construire des prototypes de réacteurs à sel fondu, les étudier, voir comment ça marche, si on a les aciers qui résistent, si ça produit bien, si c'est sûr. Parce qu'il faut faire du recyclage en ligne sur ces réacteurs. Le combustible, il va s'user. Et il faut le purifier. Donc, on prend une boucle, on dérive un peu du liquide et on recycle à mesure qu'il se brûle. Donc c'est un concept qui est très différent et on ne sait pas si techniquement tout va marcher comme prévu.
Alors il faut tester. Alors et pardonnez-moi de vous interrompre, mais il faudrait peut-être qu'on dise aussi deux mots des surgénérateurs de type Superphénix. Alors est-ce qu'on va reprendre la fabrication de ces machines extraordinaires ou est-ce qu'elles sont définitivement abandonnées? Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs très rapidement que le principe de fonctionnement des surgénérateurs et leurs avantages, mais aussi leurs dangers potentiels?
Alors c'est ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Effectivement, comme en France, on a eu d'abord Rhapsody qui était plus un petit expérimental. Ensuite, il y a eu Phoenix qui faisait 300 mégawatts. Et puis ensuite, Super Phoenix qui faisait 1200 mégawatts.
Mais qui n'a jamais abouti.
Ah si,
il a fonctionné. Il a parfaitement fonctionné.
Mais c'est un peu comme Brennilis, il a plus souvent été à l'arrêt à cause des procédures juridiques que ce qu'il a fonctionné. Mais c'est pas de la faute du réacteur, c'est plutôt la faute des procédures juridiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle réacteur à neutrons rapides. Alors, c'est très différent parce que là, il n'y a pas de ce qu'on appelle de modérateur comme dans nos réacteurs. On veut que les neutrons, ils aillent le plus vite possible pour se taper les uns les autres et faire la réaction en chaîne. Et l'avantage de ces réacteurs, c'est ce qu'on appelle des réacteurs mange-tout. C'est-à-dire qu'on peut y mettre n'importe quel combustible. C'est un peu comme un moteur diesel par rapport à un moteur à essence. Vous voyez, l'essence, c'est quelque chose de très raffiné et de très subtil. Il faut qu'elle ait exactement l'indice d'octane qui convient pour que ça fonctionne. Sinon, ça vous fait péter votre moteur. Mais par contre, dans un moteur diesel, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, de l'huile de lin, du fioul lourd, toutes sortes de choses. Et c'est un mange-tout. Eh bien, les neutrons rapides, c'est un peu le mange-tout du nucléaire.
De l'huile de vie.
L'avantage, c'est comme les neutrons sont très rapides, ils vont casser tous les atomes qu'ils rencontrent de manière assez efficace. Et donc, on peut leur mettre un peu n'importe quoi comme atome, ça marche toujours dans un réacteur à neutrons rapides. Donc, on peut faire des réacteurs à neutrons rapides à uranium-235, à uranium-238, au plutonium et au thorium.
Mais on peut même mettre des matériaux non radioactifs, par exemple du plomb.
Il faut des éléments très lourds pour qu'ils fissionnent et qu'ils fassent de l'énergie. Il faut quand même que ce soit des éléments très lourds et qu'ils soient quand même fissiles.
Oui, oui.
Enfin, sinon, ils vont pas se fissionner.
Oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Donc,
ça, c'est l'avantage.
La filière la plus, alors on a testé tout ça dans les années 50 et 60 intensément aussi, la filière la plus facile à faire à un neutron rapide, c'est la filière à plutonium.
Oui.
Donc au début, il faut soit avoir beaucoup d'uranium-235 hautement concentré, soit avoir du plutonium-239, ce qui est mieux et plus facile pour démarrer, ou 240, 241. Et donc il faut 10 ou 15 tonnes de plutonium pour démarrer ces réacteurs. Et ensuite, ils en produisent plus que ce qu'ils consomment, mais ils consomment quand même un tout petit peu d'uranium-238, c'est l'uranium naturel, celui qui est présent à 99,3% dans la nature. Donc c'est un très grand avantage, c'est qu'actuellement nos réacteurs d'aujourd'hui, ils ne brûlent qu'une petite partie de l'uranium naturel, alors qu'avec réacteurs à neutrons rapides, on peut brûler la totalité de l'uranium naturel.
Donc
ça veut dire, comme il y a 0,7% d'uranium-235 dans la nature, ça veut dire qu'on multiplie par 100 la quantité d'énergie qu'on fait avec un kilo d'uranium naturel.
Oui, gros avantage.
Donc c'est énorme. Déjà, on fait beaucoup avec très peu de combustible dans nos réacteurs d'aujourd'hui. C'est déjà une révolution. Mais avec les réacteurs Superphénix à neutrons rapides, on fait encore 100 fois plus d'énergie. Donc c'est de nouveau une révolution dans la révolution.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'avec les déchets, un jour, on va peut-être faire des centrales nucléaires qui fonctionneront avec les déchets d'aujourd'hui. Mais alors, quels sont les risques? Quels sont les risques? Parce qu'on a très peur de ces surgénérateurs, justement.
Mais écoutez, on en a très peur, mais en réalité.
Quel est le danger, les circuits sodium,
on connaît les solutions, puisque la France en a fait fonctionner pendant une cinquantaine d'années.
Est-ce qu'il y a eu des
Les Russes en ont plusieurs qui fonctionnent aussi. Il y en a eu plusieurs aux États-Unis. Bon. Il y en a en Chine aujourd'hui. Il y en a l'Inde également qui s'y met. Donc ces réacteurs, il y en a quand même eu suffisamment de construits pour qu'on sache très bien comment ils se comportent. Et la France a fait toute la filière, jusqu'à Superphénix, qui était le modèle industriel de 1200 mégawatts, c'est-à-dire aussi gros que nos plus gros réacteurs qu'on avait à l'époque. Et même que ceux qu'on a encore aujourd'hui, 1200 mégawatts, c'est presque aussi gros qu'un EPR. Mmh. Et aujourd'hui, on l'a arrêté, il faut le rappeler, pour des raisons politiques, puisque c'est qu'en 1997, quand le Parti Socialiste est arrivé au pouvoir avec Lionel Jospin, et en alliance avec les Verts et Dominique Voynet, Et donc, ils ont pris la décision à ce moment-là d'arrêter Superphénix, qui était une décision stupide. Le monde entier nous enviait. C'était une réussite technologique extraordinaire que tout le monde observait. Et donc, quand les savants russes ou américains ont appris que la France arrêtait sa filière à neutrons rapides, ils ont dit, mais ils sont fous. C'est les meilleurs au monde. C'est les seuls à avoir réussi à faire marcher ce réacteur, qui est un réacteur d'avenir. C'est le fer de lance.
Que craignait-on? Que craignait-on exactement? La corrosion.
Il n'y avait rien à craindre.
Il y a quand même du sodium là-dedans.
En 1996, il a été arrêté, en 97, avec le nouveau gouvernement. Mais en 1996, l'année d'avant, c'est le réacteur du parc français qui a eu le meilleur coefficient de disponibilité.
Oui.
Il marchait très bien, au contraire. Donc c'était une erreur.
Mais il a des particularités qui le rendent tout de même inquiétant. Je crois que les combustibles est dans du sodium liquide.
Alors, il y a du sodium liquide, mais qui risque on en utilise beaucoup dans l'industrie, tout à fait ailleurs que dans le nucléaire, et on n'en parle pas d'une manière diabolique, comme on le fait dès que c'est l'énergie nucléaire. Le sodium, c'est un métal qu'on peut tenir à la main, c'est pas quelque chose qui vous explose à la figure.
Parce que les gens voient les bombes au sodium, toujours dans l'imaginaire collectif.
Donc sodium, c'est connu. Les Russes, par exemple, en ont plusieurs en fonctionnement aujourd'hui. Vous avez le réacteur BN600. BN, ça veut dire neutron rapide. En français, on dit RNR, réacteur à neutron rapide. Les Russes, ils disent BN, ça veut dire réacteur à neutron rapide en russe. Et donc vous avez BN600, c'est 600 mégawatts qui fonctionne depuis plus de 35 ans en Russie. Qui fonctionne très bien, ils ont eu des petits incidents tout à fait mineurs, mais ça fonctionne et ça produit 600 mégawatts d'électricité. Ils ont BN800 qui est terminé et qui va prochainement diverger. BN800 et BN1200 qui est en construction. Donc ils sont en train de refaire la même filière que ce que nous on avait fait avec Superphénix. Et les Russes, ils y arrivent, ça marche bien. Il y en a eu dans d'autres pays également. Simplement, on n'a pas besoin vraiment pour l'instant de ces réacteurs. Puisqu'on a suffisamment d'uranium, beaucoup d'uranium, même beaucoup plus que ce qu'on pensait initialement. On en aura besoin plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin.
Alors, je vous interromps un instant pour poser quelques questions d'auditeurs. Alors, il y a une question sur les éoliennes, mais ça, nous allons traiter après les énergies dites renouvelables ou prétendues et les renouvelables. Elles sont en effet renouvelables, mais elles sont peu efficaces. On va voir ça tout à l'heure. Il y a quatre questions. Une, d'ailleurs, qui est tout à fait juste. L'avantage de la centrale atomique, c'est qu'elle ne consomme pas d'oxygène, contrairement aux centrales thermiques, qui, elles, évidemment, en consomment. Ça, c'est indiscutable. Alors, il y a une question qui est plutôt en forme de boutade. Alors, c'est pas faux. S'il n'y avait pas de parc ménager inutile comme le sèche-linge et le lave-vaisselle, on n'aurait pas besoin de nucléaire. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, les animaux se passent très bien de nucléaire. Ils marchent à quatre pattes, ils ont un peu des poils, ils se nourrissent de nourriture vivante. Si on n'avait pas ce besoin de confort inutile, on n'aurait pas besoin non plus d'automobiles, ni non plus de restaurants. On pourrait d'ailleurs vivre dans les arbres, comme l'aurait voulu Jean-Jacques Rousseau. L'humanité a évolué dans un sens scientifique et technicien. Et quand on dit on n'arrête pas le progrès, je crois que c'est vrai. C'est vrai que c'est inutile, mais moi, je ne me passerai pas de sèche-linge et de la vaisselle, ni d'automobile. Notre manière de vivre. C'est la civilisation qui veut ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous serez d'accord. Il y a aussi une question très intéressante. Quels seraient les effets de quelques bombes de gros calibre larguées sur chacune de nos centrales nucléaires? Ça, c'est une question en effet intéressante. On peut penser à des actes terroristes, notamment
une guerre, par exemple,
la Corée du Nord bombarde des centrales nucléaires.
Oui. Alors, si vous balancez une bombe à hydrogène au-dessus d'un réacteur nucléaire, vous pouvez pas garantir l'intégrité du réacteur nucléaire, c'est bien évident. Mais les dégâts directs de la bombe à hydrogène seront très supérieurs aux fuites qui viendront du réacteur. Donc le souci, c'est de ne pas se faire attaquer avec ce genre de bombe, parce qu'à partir du moment où vous larguez ces bombes-là sur Paris directement, vous faites beaucoup plus de morts qu'en la larguant sur une centrale nucléaire.
Finalement, c'est beaucoup plus simple.
C'est pas le cœur du problème. C'est l'existence de ce genre de bombe en soi. C'est pas le fait qu'on envoie spécifiquement sur un réacteur nucléaire.
Oui, tout à fait. Alors, autre question qui est intéressante, qui rejoint d'ailleurs la question du coût du démantèlement. Mais là, un auditeur demande depuis plusieurs fois, et là, faut quand même que je pose sa question. Quel est le prix total d'une centrale nucléaire depuis sa construction jusqu'à sa démolition? Est-ce que vous avez une idée? Ou peut-être Pascal, vous?
Oui, on a des chiffres, bien entendu, on a des chiffres, mais la réponse va être un peu normale. Ça dépend de la centrale nucléaire.
Oui.
Ça dépend de l'époque, ça dépend du pays où vous la construisez, ça dépend des normes que vous mettez autour. Et donc, si je vous pose le prix, quel est le prix d'une voiture?
Ben, voilà.
Il n'y a pas de prix de voiture, ça dépend si vous achetez une petite guimbarde d'occasion.
Évidemment.
Ou
une Rolls-Royce.
Ou une Rolls-Royce toute neuve, dernier modèle avec toutes les options. Donc, vous avez tous les prix. Mais il y a quand même un prix minimum dans la mesure où il y a une chose avec laquelle on ne discute pas et où on met le prix, c'est la sécurité.
Ouais.
Donc, on peut donner deux extrêmes, en quelque sorte, aujourd'hui. Vous avez les réacteurs historiques qu'on a coûté, qui coûtait de l'ordre de quelques milliards d'euros.
Oui.
3, 4 milliards d'euros, 5 milliards d'euros, c'est l'ordre de grandeur. Et puis vous avez l'EPR, qui est le dernier réacteur, le plus gros, le plus beau, le plus sûr, le plus moderne, avec des systèmes de sécurité multiples, redondants, etc. Et donc qui est double enceinte de confinement. Et donc lui, il coûte... alors on a plusieurs références de prix, puisqu'il y en a qui sont en Finlande, d'autres en France, d'autres en Chine, et puis il y a le dernier contrat qui vient d'être discuté en Grande-Bretagne. Donc le prix maximum, je pense qu'on l'a en Grande-Bretagne, c'est le plus cher de tous, hein, donc ça vous donne la fourchette. Grande-Bretagne, ils ont un contrat qui est de l'ordre de supérieur à 20 milliards d'euros pour deux réacteurs. Donc ça fait de l'ordre de 10 milliards d'euros par réacteur.
Ouais.
Hein, donc ça donne une fourchette entre nos anciens réacteurs qui étaient un peu moins perfectionnés que ceux d'aujourd'hui, les derniers modèles qui est à 10 milliards d'euros. Alors c'est évidemment une très grosse somme, mais il faut mettre en regard de ça le nombre de kilowattheures que ça va produire. Alors,
combien de familles vont
et pendant combien de temps et combien de familles
faire marcher leur sèche-linge, leur lave-linge,
c'est ça.
Grâce à ça.
Et quand on en parlera peut-être tout à l'heure à propos des énergies renouvelables, mais quand on fait le calcul comme ça, mais c'est beaucoup beaucoup moins cher que les énergies renouvelables qui sont intermittentes.
Alors voilà. Alors justement, il faudrait qu'on aborde maintenant la question des énergies renouvelables parce qu'il y a un postulat aujourd'hui qui s'appelle la transition énergétique. Il y a même une loi sur la transition énergétique. Alors bien sûr, il s'agit de passer essentiellement de l'énergie carbone, hein, d'énergie fossile à l'énergie électrique, mais se pose en arrière-plan la question de quelle fabrication d'électricité? Parce que fabriquer de l'électricité avec des centrales nucléaires, c'est tout à fait possible et c'est très efficace. Fabriquer de l'électricité avec des panneaux solaires et des éoliennes, c'est une véritable gageure et je ne suis pas du tout persuadé qu'on y arrivera. Alors avant d'appeler au téléphone Marie-Stella Duchiron, qu'on va essayer de joindre en Bretagne, monsieur Combi, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'arrêter l'énergie nucléaire et de passer à des énergies...
Alors, deux mots sur cette loi de transition énergétique.
Voilà.
Alors moi, je suis vent debout contre cette loi pour la raison suivante. La transition énergétique, c'est extrêmement important.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, on ne produit pas l'énergie comme hier et demain, on la produira encore autrement. Donc, il va y avoir une transition de toute façon.
Elle se fera
la question, c'est
d'elle-même.
De savoir quelle transition pour aller où. Parce que si c'est pour aller dans le mur, ce n'est pas la peine. Moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, la transition qui nous est proposée, c'est un concept important, la transition énergétique, mais il ne faut pas la rater.
Oui.
Et la transition qui nous est proposée n'est pas la bonne. C'est une transition qui nous emmène droit dans le mur. Le mur énergétique.
Alors, en quoi consiste-t-elle, cette transition qu'on nous propose?
Eh bien, elle consiste à glorifier les énergies intermittentes, diffuses et extrêmement onéreuses, hein, qui sont les énergies renouvelables.
Oui.
Et on part d'une manière dogmatique avec comme idée qu'il faut absolument diminuer l'énergie nucléaire qui est présentée, qui est supposée dogmatiquement mauvaise
pour des par nature,
idéologiques,
mauvaise,
par nature extrêmement mauvaise au départ. Donc on va lui mettre un maximum, puisqu'on en a déjà, il faudrait s'en débarrasser le plus vite possible et on lui met un maximum qu'on peut pas dépasser avec une décroissance la plus rapide possible, ce qui est complètement stupide, puisque c'est ça qui fait que le monde entier envie l'électricité nucléaire française, qui est propre et deux fois moins chère que celle de tous nos voisins en Europe.
Ouais.
Et donc, il faut, pour une énergie qui est bonne, qui est décarbonée, qui est sûre et qui est propre, il faut pas un plafond de production et une décroissance.
Ouais.
C'est l'inverse.
Ouais.
Il nous faut un minimum de production qu'on pourrait fixer, comme ça a été fait dans cette loi. Ils ont décidé de mettre en plafond le niveau actuel, ce qui fait qu'on peut pas construire de nouveaux réacteurs, alors qu'il y en aurait l'usage, notamment pour stabiliser tout le réseau électrique européen et des autres pays autour de nous qui veulent pas en faire. On pourrait leur revendre beaucoup plus d'électricité en construisant quelques réacteurs de plus. La France pourrait aussi être le premier pays au monde, grand pays industrialisé, à être 100% décarboné, alors qu'on n'a pas de ressources importantes, ni charbon, ni gaz, ni pétrole, et donc on pourrait faire du 100% décarboné, et montrer là on est à 95% décarboné pour l'électricité, ce qui est bien, mais on pourrait électrifier nos transports, avec les voitures et les camions, on pourrait électrifier le chauffage pour sortir du fioul qu'on utilise encore beaucoup pour le chauffage et qui pollue l'atmosphère et les villes, et être le premier pays 100% décarboné de la planète, alors qu'on n'a pas d'autres ressources que le nucléaire. Et donc, cette démonstration, il suffirait de faire quelques réacteurs de plus, pas beaucoup, moins de 10, pour faire
autonomie.
Un pays qui serait pas 100% nucléaire, puisqu'il y aurait encore de l'hydraulique et un peu de renouvelable malgré tout, mais qui serait 100% décarboné. et à un prix beaucoup moindre que ce que nous coûte aujourd'hui le renouvelable mal fait en dépit du bon sens.
Alors le renouvelable, Pascal Renardet, tout à l'heure vous l'aviez évalué, combien représente-t-il aujourd'hui?
Entre 3-4%.
Alors comment peut-on imaginer qu'on va passer de 3-4% à 100% ou à 80%, et d'autant plus que cette énergie dite renouvelable présente de très nombreux inconvénients qui ne sont absolument pas, alors qui sont connus de tous. Et là, alors je ne sais pas si on, est-ce qu'on a Madame Duchiron en ligne? Je ne sais pas si on peut, parce qu'elle a étudié cette question. Madame Duchiron, donc, est doctoresse sciences et, alors, faut peut-être mettre le casque. Allô, oui.
Oui, bonjour.
Voilà, bonjour Marie-Stella. Alors voilà, vous avez entendu l'émission?
Oui, tout à fait.
Bon, alors nous avons émis donc un avis critique sur les énergies dites renouvelables, prétendument renouvelables. Vous avez étudié le problème des éoliennes en particulier. Quelles sont,
oui.
Alors, on a vu qu'elles étaient faiblement productives d'électricité puisqu'elles dépendent des vents qui sont intermittents et elles produisent surtout de l'électricité quand on n'en a pas besoin et pas quand on en a besoin.
Oui,
c'est déjà contrariant.
Je voudrais d'abord faire un préambule.
Oui.
Les énergies renouvelables ont été suscitées et soutenues par l'Union européenne par rapport à l'émission de gaz carbonique.
Oui.
Or, la France, de par son parc nucléaire, oui, est le pays d'Europe qui émet le moins de gaz carbonique.
Oui.
Donc, nous n'avons pas besoin d'éoliennes selon la demande de l'Union européenne. Alors pourquoi a-t-on poussé...
Pourquoi ce fanatisme?
Voilà. Eh bien, ça part d'un autre mouvement qui s'appelle Sortir du nucléaire et qui n'a rien à voir avec la question du gaz carbonique. Parce que, comme le disait un de vos interlocuteurs tout à l'heure, l'énergie éolienne dépend du vent, qui est intermittent. Donc, comme on ne peut pas stocker l'énergie, quand il n'y a pas de vent, eh bien, on est obligé, quand il y a du vent, on est obligé de baisser une centrale, on ne baisse pas une centrale nucléaire, mais on baisse une centrale thermique, et quand il n'y a plus de vent, on relance la centrale thermique, ce qui fait que ces centrales thermiques fonctionnent par à-coup, et faites rouler votre voiture en appuyant par à-coup.
Elles consomment plus.
Vous allez polluer énormément.
Voilà, elles consomment plus. Alors, les éoliennes ont en plus un impact désastreux sur le paysage. On a eu tendance longtemps à considérer que c'était pour les autres et qu'on n'était pas menacés, mais quand on voit les projets totalement délirants du gouvernement, on peut s'inquiéter. Le risque de voir des éoliennes s'implanter à proximité de chez vous n'est pas négligeable. Quelles sont les principales nuisances? Est-ce que vous pouvez nous en parler, vous qui les avez bien étudiées?
Alors en fait, les nuisances...
Bien oui,
il y a, attendez, il y a Bruno Combi qui voudrait dire deux mots, mais peut-être qu'on laisse Maristella nous expliquer quelles sont les principales nuisances, et puis ensuite vous rebondissez. Oui, allez-y.
Alors,
je vous
en... la nuisance qui est la plus répétée au départ, dès le départ, c'est la nuisance sonore.
Voilà.
Alors déjà en septembre 1998, le manifeste de Darmstadt en Allemagne dénonçait les nuisances sonores, mais également infrasonore, de l'éolien industriel en Allemagne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se constituent les sons. Les sons, en fait, ce sont des ondes.
Mm-hmm.
Et ils vont se différencier suivant leur fréquence. Alors, vous avez les sons qui ne sont pas audibles, qui se situent en dessous de 16 Hz.
Les infrasons, oui.
Ce sont les vibrations acoustiques de très basse fréquence. Donc les infrasons. Ensuite, les sons audibles de fréquences situées entre 16, 20 et 16 000 et 20 000 Hz. Mmh. Et au-delà, ce sont les ultrasons, donc des sons très aigus qui ne sont pas audibles chez l'homme, mais qui sont perçus par les chiens, les chauves-souris.
Les chauves-souris, oui, et les insectes, oui.
Voilà. Donc les éoliennes, elles vont produire des sons, des infrasons, et... Je pense que les personnes qui souffrent également disent percevoir des ultrasons. Il y a des vibrations et tout cela provoque des symptômes qui, si la personne reste de façon prolongée exposée à ces nuisances, la personne va développer ce qu'on appelle un syndrome vibro-acoustique ou le syndrome de l'éolien.
Ouais.
Alors, je vais... voulez-vous donner la parole à votre collègue?
Mais alors, peut-être qu'on va demander à Bruno Combi, justement, de réagir par rapport à ce que vous venez de dire à la minute.
Alors, oui, effectivement, il y a quelques inconvénients aux énergies renouvelables. Elles ont un avantage, c'est qu'elles sont renouvelables, mais elles ont des inconvénients. Alors, d'abord, La meilleure des énergies renouvelables, c'est l'énergie hydraulique, oui, qui fournit quand même 15% de notre électricité en France. On n'en parle jamais de celle-là. C'est l'eau des barrages. Hein.
Elle est propre.
Elle est propre. Elle bon, est... elle n'est pas sans inconvénient, parce que quand vous avez une rupture de barrage, ouais, ça fait du dégât. Et il y en a eu. Oui. Souvenez-vous, dans les années 1950 en France, on a eu une rupture du barrage de Malpasset, où il y a eu presque 500 morts d'un coup. La ville de Fréjus, il y avait une vague qui faisait encore une dizaine de mètres de hauteur. C'était un tsunami. Hein, c'est arrivé au niveau de la, en amont, au niveau de la ville de Fréjus.
Donc
c'est pas sans danger l'énergie hydraulique. Vous avez des barrages à Morvi en Inde, par exemple, la même année que l'accident de Sri Mahalalan. Tout le monde se souvient de l'accident américain,
qui n'a pas fait de mort.
Mais la même année, en 1979, à Morvi en Inde, il y a un barrage qui a lâché et il y a eu plus de 30 000 morts.
Voilà. Et, ça,
et donc personne n'en parle.
Oui.
Donc il y a un peu un traitement différencié au niveau des médias. Mais les énergies renouvelables. Donc si ça fonctionnait, je serais le premier à signer pour avec les deux mains. Malheureusement, elles ont des inconvénients, notamment le fait que c'est intermittent. Et s'il y avait une solution à l'intermittence qui soit facile et bon marché, mon avis serait différent. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution à l'intermittence. Qu'on a, en hiver, on a le plus besoin d'électricité quand il fait froid pour chauffer les maisons. Et à ce moment-là, on est généralement dans un régime de météo anticyclonique où il n'y a pas de vent. Ou très peu de vent. Or, l'énergie produite par le vent, c'est fonction du cube de la vitesse du vent. Donc, quand il y a un vent faible, il n'y a pas d'énergie du tout.
Ouais.
Voilà. Et il faut un vent très fort pour que ça produise l'énergie correctement. Donc, le rendement moyen des éoliennes en France, par rapport à la puissance totale installée, c'est d'environ 15 ou 20%. Donc, c'est vraiment quand même assez faible. Et on n'a pas ça au moment où on en a besoin. Et c'est pas programmable. Donc, c'est ce qu'on appelle une énergie fatale. C'est-à-dire que quand elle est produite, il faut la consommer.
Ah
et
oui.
Donc, comme Madame vient de nous l'expliquer, ça oblige d'autres outils de production à diminuer leur production. Et en l'occurrence, le nucléaire aussi doit diminuer sa production quand on a trop de renouvelables et on commence à arriver en France. Il y a du suivi de charge qui est fait par environ la moitié de nos centrales nucléaires qui peuvent moduler la charge en fonction des besoins.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des météorologues dans les centrales nucléaires. Pour savoir s'il va faire beau et s'il y aura du vent.
Ah oui. Oui,
oui absolument. Oui. Pour prévoir la consommation des jours suivants.
Alors
ils sont pas dans les centrales nucléaires, c'est plutôt dans la gestion du réseau.
Alors, il y a un moyen de stocker l'énergie dont parlait Pascal Renardet, c'est le pompage.
Oui, les steps, oui. C'est-à-dire, station de,
De
transfert d'énergie par pompage. Ouais. Bon, ces stations existent déjà pour l'énergie nucléaire parce que l'énergie nucléaire a un inconvénient, c'est que pratiquement on est obligé de garder la capacité constante. Donc si on n'a pas besoin de cette électricité, on utilise actuellement, l'EDF utilise ses STEP pour remonter de l'eau et refaire redescendre l'eau quand on en a besoin. Donc ces STEP, éventuellement, ce principe pourrait être utilisé pour les éoliennes. Pour l'instant, il n'en est pas question. Je pense que il faudrait justement, pour que les éoliennes puissent remplir leurs fonctions correctement, il faudrait créer des STEP spécifiques, à l'éolien.
Sauf que malheureusement, ce n'est pas possible parce que les STEP permettent de stocker quelques heures de consommation électrique en France, alors que l'éolien, le vent ne peut ne pas souffler pendant des semaines entières quelquefois. Et ouais. Donc l'intensité du stockage qui serait nécessaire n'est absolument pas possible à réaliser, même si on multipliait considérablement le nombre de STEP que nous avons.
Alors quand on voit le projet actuel du gouvernement, qui consiste à arrêter progressivement le nucléaire et à couvrir la France d'éoliennes, on est épouvanté. Parce que, alors c'est ce que je rappelle le titre du livre « Éolienne, un scandale d'État » d'Alban Darguin, édité aux éditions Synthèse, parce qu'on s'aperçoit que derrière l'engouement soudain des investisseurs pour les éoliennes, il y a un système totalement aberrant, puisque EDF s'engage à racheter le courant à un prix exorbitant, Et oui, alors le prince me dit qu'il faut que je... Attendez, question, je comprends pas, j'arrive pas à lire, donc on verra après. On s'engage à racheter le courant à un prix absolument exorbitant, ce qui attire beaucoup les investisseurs, mais ça aboutira à couvrir le pays d'éoliennes, avec un impact sanitaire et environnemental désastreux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez lu le livre d'Alban Darguin, Monsieur Combi?
Alors, je vais vous donner une image pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont il s'agit. Si on voulait produire autant d'énergie qu'un réacteur EPR, un réacteur EPR, c'est la taille d'un gros immeuble ou d'un bâtiment. Hein. Et pour produire autant d'énergie avec des éoliennes, alors d'abord les éoliennes modernes, c'est pas des petites éoliennes sympathiques qu'on met dans son jardin
oui.
et qui produisent toute l'électricité dont on a besoin. Les éoliennes modernes, ce sont des monstres d'acier qui oui. sont deux fois plus
alors,
haut
voilà,
que la cathédrale de notre pays, Notre-Dame de Paris. Ça fait 72 mètres, la cathédrale de Paris. Hein, mais les éoliennes modernes, ça fait jusqu'à 150
oui,
mètres de haut.
Parce que tout à l'heure,
plus du double.
Un auditeur...
Ce sont des monstres d'acier voilà. et il faudrait les aligner depuis Gênes en Italie jusqu'à Barcelone en Espagne. Elles font 100 mètres d'envergure. On en met une tous les 300 mètres parce que c'est les normes européennes. On n'a pas le droit de les mettre plus proches que ça pour que les oiseaux aient une chance sur deux de pouvoir passer entre deux éoliennes. Donc on les alignerait de Gênes en Italie jusqu'à Barcelone en Espagne pour remplacer un seul réacteur EPR qui tient dans un bâtiment.
Ouais.
Et donc
ouais.
on voit bien que c'est une aberration écologique totale par rapport à l'impact sur les paysages, sans compter les matériaux de construction.
Ouais.
Évidemment, s'il suffisait de mettre une ou deux ou quelques éoliennes pour remplacer un réacteur nucléaire, il faudrait le faire.
Mais
malheureusement, c'est pas possible. Ce sont
bien.
Des milliers, des milliers, des milliers. On couvre le territoire
voilà,
entier et
voilà.
ça produit toujours pas autant qu'un réacteur
toujours.
Nucléaire.
Maristella, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis toujours
voilà.
en ligne.
Alors,
une précision là.
Oui.
Pour remplacer, si on voulait remplacer le parc nucléaire par des éoliennes, ne serait-ce que la centrale de Fessenheim, il faudrait 7000 éoliennes fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
C'est ça.
7000 éoliennes, vous vous rendez compte?
Ah oui, c'est énorme.
Mais l'autre jour, je posais la question à propos des éoliennes et leur démantèlement à elles aussi. Et alors, on me disait qu'il y avait un bloc de béton sous l'éolienne, 150 tonnes de béton.
Parfaitement, il y a 1500 tonnes
oui,
de béton.
Oui, c'est 1000 tonnes de béton.
Pardon, 1500 tonnes de béton en dessous. Et alors, on m'a répondu, un écologiste, qui était fort sympathique, entre autres, m'a répondu que c'était pas très grave parce que c'était sous terre, ça ne se voyait pas. Alors, je lui dis qu'il avait probablement raison, mais que ceci dit, quand on enfouissait les déchets nucléaires, on
c'est
les mettait
pareil.
Sous terre, on les voit pas, donc il n'y a pas de problème non plus. Ça, il n'était pas d'accord avec moi.
Et les autruches mettent la tête dans le sable pour pas voir également.
Oui, et il y a une autre chose qui n'est pas dite sur cette question du démantèlement des éoliennes, c'est que on appâte souvent les agriculteurs ou les particuliers en disant on va vous mettre une éolienne sur votre terrain, on va vous payer une petite
ouais.
redevance, et les gens signent les deux yeux fermés. Mais dans le contrat qu'on leur fait signer, il est marqué que c'est eux qui sont responsables du démantèlement futur en totalité.
Ouais.
Et donc les industriels se défaussent de leur propre responsabilité en la faisant subir aux petits propriétaires qui ont le malheur de mettre leurs doigts dans cet engrenage malsain.
Quelqu'un avait
Vous
fait
savez
une
combien coûte le démantèlement d'une éolienne?
Alors non.
Entre 500 000 et 850 000 euros l'éolienne.
Ah oui, alors là, on parlait tout à l'heure du coût du démantèlement du nucléaire,
oui.
mais là, ça n'est pas négligeable non plus.
Entre sans enlever le bloc de béton.
Entre 500 et 800 000 euros l'éolienne.
Et voilà. Personne ne provisionne ces sommes-là.
Ah bah
ce sera le propriétaire du champ qui devra payer ses sommes.
Et il ne pourra jamais.
On m'a fait une comparaison intéressante l'autre jour. On m'a dit qu'on avait coulé suffisamment de béton sous les éoliennes à travers toute la France, une quantité qui correspond à plus de béton que le mur de l'Atlantique.
Ça ne m'étonne pas, oui. Et alors, les éoliennes présentent en France un autre inconvénient, Maristella, c'est qu'elles sont implantées à jusqu'à 500 mètres des habitations, alors que dans les autres pays européens, on est à des distances beaucoup plus importantes, qui sont de 1500 à 2200 mètres à peu près. Pourquoi cette règle des 500 mètres, qui est extrêmement nuisible, parce que les infrasons sont tout à fait perceptibles à 500 mètres, sans compter également le mouvement des pales, le risque de troubles visuels liés au mouvement des pales, puisque ça peut dégénérer en crise d'épilepsie. Pourquoi cette règle des 500 mètres, qui est contraire aux recommandations de l'Académie de médecine, d'ailleurs, en 2006, pourquoi est-ce qu'on n'a pas suivi la règle des 1500 ou des 2000 mètres, comme dans d'autres pays?
Tout cela, c'est pour ne pas défriser les promoteurs éoliens, parce que nous sommes dans un pays où l'habitat est dispersé,
oui.
et si l'on fixait comme règle de ne pas construire d'éoliennes à moins de 1000 mètres d'une habitation, on n'en aurait pratiquement pas sur le territoire français.
Ah, voilà, donc c'est pour pouvoir, parce que comme on a un habitat très dispersé,
voilà.
Donc il fallait s'affranchir de la règle des 1500 mètres, et oui.
Alors que au Canada, il y a un médecin, le docteur Nina Pierpont, qui a dit qu'il fallait ne pas mettre d'éoliennes à moins de 5 km d'une habitation. Et d'autres personnes se plaignent en France des éoliennes à 20 km du parc.
Jusqu'à 20 km, on les entend.
Mais les infrasons, en fait, font le tour de la Terre. Rien ne les arrête.
Ah, plus, ah c'est étonnant.
Oui, c'est... Et en fait, ce sont des...
Plus la longueur d'onde est grande et plus ça va loin.
Ah oui. Donc les infrasons, mais comment les gens les perçoivent-ils puisqu'on ne les entend pas?
Alors, ils les perçoivent comme des vibrations. Je vais vous citer l'ensemble des symptômes.
Oui.
Ils ont des troubles du sommeil. Mm-hmm. En fait, c'est une forme de vibration du corps en permanence, vous voyez.
Oui.
Ils ont des maux de tête, des acouphènes, alors bourdonnements ou des tintements dans les oreilles. Une sensation d'augmentation de la pression à l'intérieur de l'oreille,
oui.
Des vertiges, donc étourdissement, sensation d'évanouissement, la sensation du corps ou de qui tourne ou de la pièce qui tourne,
oui, vertige,
des
nausées, oui.
Des troubles de la vue, de la tachycardie. Ça porte également sur le système nerveux, donc des comportements qui deviennent irritables, des problèmes de concentration, de mémoire, des angoisses, des palpitations, etc. Et un chercheur allemand avait établi la liste des effets sur sur les organes. Alors, il disait également qu'il y avait des douleurs oculaires, des effets sur la tension artérielle, des phénomènes de dépression, des troubles circulatoires, épilepsie, effets sur le système endocrine. Alors là, je note que pour les enfants, les infrasons touchent l'hypophyse. Modification des érythrocytes, modification des seuils de sensibilité vibrotactile,
oui.
Troubles de l'équilibre, effet sur la température corporelle, sur la résistance de la peau, sur la fréquence cardiaque, sur la fonction hypophysaire, problème cardiaque, donc infarctus, diminution de l'irrigation sanguine de l'estomac, problèmes neuromoteurs, acouphènes, etc.
Bon, il y a beaucoup de choses, mais enfin, bon, tout le monde, heureusement, n'est pas sensible à ce point.
Alors, il y a des personnes qui sont plus sensibles. Je ferai un parallèle avec les personnes qui sont sensibles aux champs électromagnétiques.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Les électro-hypersensibles, ce sont exactement les mêmes symptômes.
Les mêmes symptômes.
Et d'autres personnes ne le sont pas.
Alors, évidemment, la malchance pour quelqu'un qui est hypersensible, c'est d'avoir une antenne relais et une éolienne à côté de soi.
Voilà. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand il y a des problèmes sanitaires qui viennent au jour, les personnes écrivent au préfet, il y a des mesures qui sont effectuées. Bon, il est classique, comme dans les problèmes qui avaient exposé les éleveurs à des souffrances de leurs animaux au bord des lignes à haute tension, c'est que quand le jour des mesures, tout baissait.
Oui, bien sûr.
C'est pareil pour les éoliennes. Et en fait, on dit, bon, il y a telle intensité qui a été mesurée, mais cela ne prouve pas vos troubles qui doivent venir d'autres choses. Alors, il y a aussi un phénomène, c'est que lorsque vous avez plusieurs éoliennes en face de vous, les éoliennes ne vont pas tourner en phase.
Oui.
Donc, il va y avoir des phénomènes de résonance.
Ah oui.
C'est ça qui est vraiment extrêmement nocif pour le voisinage. Et des phénomènes de réverbération suivant la topographie.
Bah.
Alors, pour cette raison, nous avons contacté le professeur Gilbert Mouton, que vos collaborateurs, là, d'émission,
oui.
Ont dû connaître, qui s'est beaucoup investi dans le problème de Tchernobyl, du nuage qui avait dépassé la frontière. Donc, professeur Gilbert Mouton est un vétérinaire, expert agréé par la Cour de cassation, et très proche de tout ce qui est problème sanitaire. On lui doit la révélation donc du scandale de Tchernobyl, de la viande halal, la vache folle, etc. Et il se propose de répondre aux demandes des personnes qui sont atteintes par les infrasons, d'effectuer une expertise sanitaire au bord de ces parcs éoliens.
Ouais.
Alors, je profite donc de cette émission pour transmettre cette information, que toute personne qui est susceptible de souffrir des parcs éoliens dans le futur, ou même qui en souffre aujourd'hui, peut s'adresser à moi via mon association qui est l'AFM CISEM. Je vous donnerai les coordonnées après.
Oui, oui, peut-être pourrez-vous les communiquer à Radio Courtoisie, qui ainsi pourra les retransmettre aux auditeurs qui pourraient être intéressés.
Voilà.
Ce sera le meilleur système, en effet.
Parce que si cette expertise se réalisait, eh bien, il n'y aurait plus aucune éolienne à fonctionner à la surface de la Terre.
Ah oui, effectivement. Alors ça, c'est une énergie renouvelable qui présente beaucoup d'inconvénients. Il y a d'autres énergies dites renouvelables. Il y a notamment les panneaux solaires. Alors que faut-il penser des panneaux solaires? Est-ce que Marie-Stella, vous avez étudié cette question, ou est-ce qu'on pose la question à Bruno Combi?
Vous en dire quelques mots.
Oui, mais après on laisse parler Bruno Combi, qui lui aussi voudrait en dire un peu.
Je vous en prie. Oui.
Non, mais allez-y, Marie-Stella, oui. Puisque vous êtes au téléphone.
Alors les panneaux solaires, en fait, leur problème, c'est qu'ils sont construits avec différents composants. Bon, il y a des modules au silicium, mais également il y a des modules qui contiennent des produits toxiques comme le cadmium, le bore, oui. Le phosphore, le plomb. Et notamment les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, peuvent entraîner ces produits toxiques dans les eaux souterraines, dans les sols.
Mais alors ça veut dire que les eaux de pluie peuvent pénétrer à l'intérieur des panneaux solaires et emmener ces produits toxiques dans les sols, non? Comment la pollution peut-elle se faire?
Mais c'est au niveau du ruissellement sur les panneaux.
Sur les panneaux eux-mêmes, voilà, mais ils sont protégés par une plaque de verre.
Alors après, je ne sais pas exactement comment.
Ou c'est au moment du recyclage plutôt.
Pardon?
Ou peut-être au moment du recyclage.
Non, déjà, lors du fonctionnement, ça m'a été dit par...
Bruno Combi semble très, très sceptique.
Ça a été le cas, ça a été constaté dans certaines situations.
Ah, écoutez, parce qu'il faudrait que l'eau pénètre à l'intérieur et entre en contact avec les éléments dont vous parlez.
Il y a certainement des phénomènes de pénétration qui peuvent se produire, je pense. Ensuite, il y a le recyclage, effectivement.
Ah oui, alors ça, le recyclage, oui.
C'est un gros problème.
Oui. Alors, Bruno Combi, peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous pensez.
Oui, alors les panneaux solaires, effectivement, c'est une autre énergie renouvelable qui vient du soleil, cette fois, et qui a un peu les deux mêmes inconvénients que l'éolien. Le premier, c'est l'intermittence, c'est-à-dire qu'on ne produit que quand le soleil veut bien briller, et malheureusement, c'est pas tous les jours. Il suffit qu'il y ait un nuage qui passe devant le soleil, vous produisez quasiment plus rien. Et puis, bien sûr, la nuit, on produit pas alors qu'on a besoin d'énergie
évidemment.
Aussi. Alors, on peut stocker sur quelques heures l'énergie. Donc, la question de la nuit, avec les batteries au lithium qu'on a maintenant, avec les STEP, la nuit, on peut faire la nuit pour le jour.
Oui.
La principale difficulté, moi, j'ai une maison, personnellement, qui est passive et positive en énergie, avec des panneaux solaires sur le toit.
Oui.
Donc, je produis sur l'année, plus que je ne consomme.
Ah oui.
Mais ça n'est pas au même moment. C'est-à-dire que je produis essentiellement mon électricité photovoltaïque en été, quand il y a plus de soleil, et j'ai essentiellement besoin d'électricité pour faire tourner ma pompe à chaleur en hiver, au moment où il y en a le moins. Mais il y en a quand même un petit peu.
Et comment stockez-vous?
Eh bien, je ne stocke pas, je revends tout.
Ah oui.
Et donc, je suis très content d'être encore branché sur le réseau nucléaire d'EDF, qui me fournit de l'électricité nucléaire quand mes panneaux solaires ne marchent pas.
Oui.
Donc, cette question du stockage est tout à fait centrale à la question des énergies renouvelables. Tant qu'il n'y a pas de stockage qui fonctionne bien dans des quantités qui conviennent, les énergies renouvelables sont quasiment inutiles. Quand vous construisez des énergies renouvelables, on peut prendre le cas des éoliennes encore, en fait, on paye 4 ou 5 fois la même chose.
Oui,
vous payez une première fois parce que vous donnez une subvention pour construire l'éolienne. Sinon, elle n'est pas très rentable et personne ne la construira. Ensuite, une fois que l'éolienne est construite, il faut avoir un tarif de rachat qui est supérieur au prix du marché, parce que sinon, personne n'achètera cette électricité qui arrive toujours au moment où on n'en a pas besoin. Donc vous payez une deuxième fois avec des tarifs de rachat obligatoires à des prix supérieurs au prix du marché.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Et par ailleurs, on explique qu'on est en concurrence et qu'il faut appliquer les méthodes du marché.
Oui,
donc c'est un peu contradictoire.
Oui.
Voilà. Et ensuite, vous repayez une troisième fois, parce que tout ça, le jour où il n'y a pas de vent, de toute façon, ça produit rien. Et donc il faut construire une capacité de secours pour le jour où il n'y a pas de vent. Et cette capacité de secours, en pratique, c'est du gaz. Aujourd'hui, du gaz d'industrie centrale électrique à gaz naturel. Et donc, vous payez une troisième fois pour construire votre capacité de secours, mais vous remarquerez au passage qu'une fois que vous avez la capacité de secours, qui, elle, fonctionne chaque fois qu'on en a besoin, il suffit d'appuyer sur le bouton, puisqu'il faut que ça soit prêt à démarrer n'importe quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent. Une fois que vous avez la capacité de secours, sur le plan économique, votre investissement que vous avez mis dans le renouvelable, il sert à rien, il est perdu, évidemment. Puisque la capacité de secours peut tout faire.
Évidemment.
Avec toute seule. Donc vous payez une troisième fois, et ensuite vous repayez encore une quatrième fois, parce que la capacité de secours que vous avez construite, qui va être du gaz ou du charbon, typiquement, non, c'est pas ça. C'est que comme on donne une priorité d'accès au réseau renouvelable, et que vous allez produire par exemple 20% du temps, ou dans les meilleurs cas 30% du temps avec du renouvelable, eh bien vous allez diminuer la rentabilité de la centrale qui elle pourrait fonctionner tout le temps, la centrale à gaz, qui du coup ne se retrouve pas rentable parce qu'elle fonctionnait tout le temps, elle serait rentable, mais si vous lui enlevez 30%, elle est plus rentable. Donc il faut de nouveau subventionner la capacité de rechange.
C'est ce qu'on disait tout à
l'heure. Finalement, vous payez quatre fois la même chose, pour finalement, puisqu'on est en France où de toute façon l'électricité est quasi totalement décarbonée, de toute façon ça n'enlève même pas de la pollution à l'environnement. Donc vous avez payé quatre fois la même chose, et ça n'est pas des petites sommes dont on parle. Si on prend, ça s'appelle la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, parce qu'on n'a pas appelé ça la super taxe pour les énergies renouvelables, sinon les gens seraient tous vent debout contre les énergies renouvelables. Donc on a mis un nom un peu compliqué à comprendre. Oui. Ça s'appelle la contribution au service public de l'électricité. C'est comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Oui. En fait, autrefois, ça servait à faire l'électrification des zones rurales un peu éloignées, pour que tout le monde paye l'électricité avec le même prix, même à la campagne. Mais aujourd'hui, ça sert essentiellement à subventionner les éoliennes et le solaire. Et donc, on paye quatre fois la même chose. C'est un gaspillage financier monumental. En 2017, le montant de la CSPE pour les énergies renouvelables, c'est environ 8 milliards d'euros.
Oui.
Tenez-vous bien, 8 milliards d'euros, vous rêvez pas, hein, c'est bien des milliards.
C'est colossal. Alors,
c'est colossal.
Alors, j'aimerais me tourner un instant vers Pascal Renardet, qui est un spécialiste de la politique énergétique. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique énergétique, Pascal? C'est absolument incroyable, on marche sur la tête. C'est ahurissant. Totalement ahurissant.
Oui, c'est une conséquence et dramatique. Parce que, justement,
ça atteint même des niveaux métaphysiques.
On va bientôt parler de dizaines de milliards. C'est-à-dire que l'on va payer en supplément pour les éoliennes est de l'ordre de grandeur de notre endettement. Donc, ça veut dire qu'on va encore s'endetter. Et bien sûr, on ne pourra pas payer. Et le plus important, c'est que en s'endettant, notre production, ce qu'on appelle notre production intérieure brute, ne va pas augmenter. Elle va être même décroître.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis une dizaine d'années en France, non seulement en France, mais dans pratiquement tous les pays européens. Par exemple, l'Allemagne. Sa consommation d'énergie qui a baissé de 5,5%, la Grande-Bretagne de 17%, l'Italie 18%, l'Espagne de 12%, et même les États-Unis ont baissé leur production intérieure, leur consommation d'énergie de 2,5%. Donc on voit que à cause des énergies en partie, mais à cause des énergies dites renouvelables, le coût de l'énergie augmente d'une telle manière que, de fait, on consomme moins, et comme on consomme moins, on produit moins. Donc, est-ce que nous allons déjà dans un système de décroissance, le rationnement qui va conduire à un problème de décroissance économique
et de déclin.
Alors est-ce que
on voit bien que tous nos emplois sont en train de partir dans d'autres pays plus à l'est ou
voilà tout à fait
et cette mauvaise politique énergétique va accélérer ce phénomène. Il faut bien comprendre que ce qui fait tourner les tracteurs dans les champs, les usines qui produisent des biens et qui fait tourner l'économie tout entière finalement et qui nous nourrit et nous pour qu'on puisse avoir une vie confortable, c'est quand même l'énergie qui
elle
fait tout fonctionner.
Elle est totalement proportionnelle à l'énergie.
Absolument.
Donc, si la consommation baisse, eh bien notre production baisse.
Voilà,
c'est très simple.
Et notre mode de vie baisse.
Alors, vous êtes toujours en ligne,
oui,
Marie-Stella?
Toujours.
Voilà, alors il y a quelques réactions intéressantes d'auditeurs. Un auditeur fait remarquer que les terres dans lesquelles sont implantées les éoliennes deviennent impropres à toute culture, qu'elles dérivent l'irrigation naturelle des terres, qu'elles les rendent donc impropres à la culture. 800 000 euros sont nécessaires au démantèlement des éoliennes, qui ne sont rien en comparé à l'extraction de 1000 tonnes de béton et de ferraillage. Alors un autre auditeur fait remarquer que les Américains commencent à ne plus vouloir des éoliennes, qu'il y a des parcs entiers d'éoliennes au Texas qui sont en train de rouiller en Californie, parce qu'ils se sont rendus compte que ça dégradait l'environnement, revenait très cher et était dangereux pour les oiseaux. Et alors il y a un troisième auditeur qui demande comment la construction des éoliennes est-elle financée, y aurait-il du blanchiment d'argent dans ces investissements. Bah, il y a des petits malins, on l'a vu dans le livre, d'ailleurs c'est très bien expliqué, le livre d'Alban Darguin, Éolienne, un scandale d'État, édité aux éditions Synthèse. Il explique justement que l'on a subventionné à outrance cette forme de production d'énergie, d'électricité, qui n'est pas du tout rentable au départ, pour essayer de créer ce qu'on pensait être un cercle vertueux, mais ça a surtout alimenté la spéculation. Alors d'où viennent les fonds? Vous avez étudié, Pascal, l'origine des fonds qui servent?
D'après ce livre, la majorité viennent de compagnies allemandes.
Oui.
Justement, qui avaient fabriqué des éoliennes en Allemagne, l'Allemagne a suspendu pratiquement la fabrication d'éoliennes. Donc ils viennent travailler tranquillement en France avec une rentabilité excessive.
Excellente, qui est financée par le contribuable français, en fin de compte.
Et nous n'avons plus aucun fabricant d'éoliennes en France, donc tout l'argent part ailleurs.
C'est General Electric, généralement, qui fabrique.
Et on voit que ça détruit nos paysages en même temps. On n'a pas dit ça, mais je vois par exemple, sur le plateau du Larzac, qui est quand même un parc naturel, le parc naturel du Larzac, eh bien, il y a encore des éoliennes, il y a quelques semaines, là, qui ont été érigées en plein milieu du parc naturel de Larzac. C'est-à-dire, on respecte même plus nos parcs naturels maintenant.
Oui. Oui. Alors, il y a un auditeur très impatient qui dit « Mais enfin, pourquoi ne parlez-vous jamais, des recherches pour d'autres énergies encore ?» J'ai vu fonctionner un moteur, alors j'avais surunitaire, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a le moteur à eau aussi, qui est bien connu. Oui. Quand va-t-on avancer? Quand je suis contre les éoliennes. Bon, alors voilà. Donc effectivement, est-ce qu'il y aurait, puisque on a vu que finalement on n'a pas tellement le choix, soit ces énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel. Bon, soit c'est le nucléaire qui a beaucoup d'avantages, mais pour des raisons à caractère presque religieux, on a décidé que c'était mal, et alors là, quand on rentre là-dedans, on est dans l'irrationnel total, alors que le nucléaire, finalement, est quand même la seule...
Ça fait le job.
C'est la seule énergie quand même rationnelle pour le monde moderne, et puis les éoliens et le solaire, c'est de la roupie de Sansonnet, finalement. Bon, c'est se moquer du monde. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres possibles? Voilà, alors, Pascal...
Il y a l'hydraulique, bien sûr.
Alors,
l'hydraulique,
oui, mais l'hydraulique
a tous
c'est
les avantages,
limité.
Mais ne permettra jamais...
Bien sûr.
L'hydraulique ne représentera toujours une part inférieure à 10% de notre énergie que nous consommons.
Ça dépend des pays. En réalité, l'hydraulique est une bonne énergie. Il faut la développer là où on peut. Il y a quelques pays sur la planète dont c'est la ressource essentielle et ça leur suffit. Par exemple, vous avez le Costa Rica. Pour avoir beaucoup d'énergie hydraulique, il faut deux choses. Il faut beaucoup d'eau. Et beaucoup de relief.
Oui, c'est ça.
Des grosses montagnes, parce que c'est proportionnel à la quantité d'eau qui passe dans la turbine et à la hauteur de chute. Donc il faut des montagnes. Donc vous avez le Costa Rica qui arrive à faire pratiquement qu'avec ça. Vous avez la Suisse et l'Autriche.
Je crois l'Éthiopie.
Dans les régions comme
Par exemple, comme l'Islande, où il y a beaucoup de géothermie, parce que vous avez des volcans et de la lave qui affleurent un petit peu partout, donc de l'eau très chaude. Donc en Islande, ils peuvent faire beaucoup avec la géothermie. Mais malheureusement, en France, où il y a quand même une densité de population qui est plus grande qu'au Canada ou en Russie, on a besoin d'une énergie concentrée, quand même assez abondante. Et malheureusement, on n'a pas les ressources de pétrole, de gaz, de charbon, de géothermie et tout ça. Donc il faut bien qu'on fasse avec autre chose. Donc la bonne politique, c'est de faire ce qu'on peut avec l'hydraulique et la géothermie, qui sont les meilleures énergies renouvelables quand on en a.
Ouais.
Et dans la mesure, dans la limite de la quantité dont on dispose. Et après, il faut compléter pour le reste avec du nucléaire.
Mais la géothermie, est-ce qu'on pourrait espérer un développement de cette source de chaleur qui est importante, qui est située dans le manteau, mais il faut creuser très profondément?
Alors, vous avez plusieurs types de géothermie. Vous avez la géothermie superficielle. Par exemple, à Paris, vous avez un certain pourcentage, de l'ordre de 20% des logements qui sont chauffés par une énergie géothermique. Il y a de l'eau chaude sous la ville de Paris. Mais, on peut pas le multiplier à l'infini. Il y a qu'un certain potentiel.
Parce que l'eau, elle, elle est chaude en bas et l'eau, elle arrive
faire,
d'en haut.
Il faut le faire. Alors après, il y a les recherches sur la géothermie profonde.
Voilà.
Donc par exemple, à Soultz sous forêt dans l'est de la France, en Alsace, vous avez des forages. Alors là, on fait des forages à 5-10 km de profondeur.
Ah oui, 10 000 mètres.
Voilà, c'est des forages qui sont plus profonds que les forages pétroliers, même, pour aller chercher la chaleur.
Oui.
On va chercher la chaleur des volcans. Hein.
Oui, oui, bien sûr, oui.
On va, ça monte d'environ 1 degré toutes les 30 mètres, la température. Mais donc, il faut aller assez profond pour avoir des températures suffisantes. Et l'idée, c'est qu'en faisant deux puits et en faisant injectant de l'eau, en fracturant le sol, mais c'est du fracking.
Oui, c'est ça. Donc, avec d'autres inconvénients.
Avec d'autres inconvénients. Et on ferait circuler de l'eau qui ressortirait chaude.
Oui.
Voilà. Mais pour l'instant, on teste. C'est à l'étude. Alors, peut-être qu'on pourra en faire un peu. Le potentiel ne sera pas infini non plus, de toute façon.
Maristella, qu'est-ce que vous en pensez de ces autres énergies que l'on pourrait essayer de développer?
Alors, ce que je pense personnellement, c'est qu'il faudrait déjà diminuer le gaspillage.
Oui.
J'ai pu remarquer que la demande en électricité a augmenté à partir des années 2000, avec l'incitation de tout faire à l'électrique dans les habitations, chauffage électrique, et également avec le développement des antennes de téléphonie mobile qui sont très énergivores.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Alors, ça, c'est une chose. Il y a une autre chose, c'est que je pense qu'il faudrait que les habitants, les citoyens deviennent de plus en plus autonomes et qu'on se distance de ces grands réseaux et que, par exemple, on peut récupérer l'eau chaude de la fossée les eaux usées, par exemple des douches, l'eau chaude peut servir à chauffer la maison. Il y a certaines maisons aujourd'hui qui fonctionnent comme ça.
Ça, c'est tout à fait exact, puisque chez moi, j'ai ce système qui est installé, que j'ai bricolé moi-même.
Ah oui.
Donc c'est ce qu'on appelle un échangeur eau-eau. Où vous avez l'eau chaude qui sort de la douche quand vous prenez votre douche.
Bien sûr,
c'est 37 degrés, c'est la température de confort du corps humain. Et ces 37 degrés qu'on a dû chauffer avec en consommant de l'énergie, eh bien, on va rejeter cette eau chaude dans les égouts. Ça va réchauffer les égouts qui sert absolument à rien.
Ouais.
Donc, il suffit de mettre un échangeur qui récupère la chaleur avant de rejeter les eaux refroidies à l'égout. Et on récupère la chaleur qu'on réinjecte dans l'eau qui arrive dans le chauffe-eau.
Ouais.
Donc, moi, j'ai installé un prototype de système-là chez moi que j'ai bricolé moi-même avec 50 € de tuyaux en plastique et en cuivre. Ça marche très bien. Ma première version du prototype qui m'a coûté 100 € de tuyaux, 50 à 100 € de tuyaux, et ça fait la moitié de mon eau chaude. Ça divise par deux. Donc, c'est tout à fait extraordinaire.
Je vais vous faire venir
ma version 2.0, qui est en cours d'installation, il y a un peu plus de cuivre pour que l'échangeur ait une plus grande surface d'échange, et ça fait les trois quarts de l'eau chaude, donc ça veut dire qu'on consomme quatre fois moins pour faire de l'eau chaude. Et pour ma part, l'eau chaude est faite avec une pompe à chaleur eau haut, ce qui fait que la pompe à chaleur consomme aussi quatre fois moins. Donc, quand on conjugue les deux systèmes, c'est quatre fois moins par à cause de la pompe à chaleur, et encore quatre fois moins à cause du récupérateur sur l'eau chaude avant rejet aux égouts. Donc, ça fait 16 fois moins. Donc, quand je prends ma douche, je consomme 16 fois moins que d'autres.
Et c'est merveilleux. Écoutez, je crois que les auditeurs vont.
Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Vous avez tout à fait raison.
Faut prendre contact avec vous. Est-ce que vous faites aussi des travaux de plomberie, peut-être?
Et puis, je disais aussi qu'on peut utiliser les fosses septiques comme méthaniers.
Ah oui, le méthane des fosses septiques. Si on n'a pas le sous-té l'égout.
Oui, il faut qu'elles soient bien étanches. Hein.
Oui. Et là, on peut faire brûler des chandelles le soir, oui, à la veillée. Bien, écoutez, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Maristella, d'être intervenue pour nous éclairer sur le scandale des éoliennes. Continuez votre combat. Donc, je propose que je vous donnerai les coordonnées de Radio Courtoisie. Vous pourrez leur fournir tous les détails sur votre association afin que les auditeurs puissent ensuite se remettre en contact avec vous et obtenir tous les renseignements utiles.
Très
voilà.
Bien, entendu.
Merci beaucoup, en tout cas, et à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bien, chers auditeurs, donc on est quand même à peu près d'accord. On n'a pas beaucoup le choix. Hein. Donc au fond, je dirais que l'urgence est de pas aller dans le mur, comme l'a dit très bien Bruno Combi tout à l'heure, et de ne pas se laisser aveugler par des passions idéologiques et presque à caractère métaphysique et religieux.
Et c'est très important, c'est très imprudent de faire comme on fait dans cette loi de transition énergétique, qui est de vouloir imposer une décroissance énergétique, alors qu'on a encore besoin de l'énergie.
Oui.
Il faut faire l'inverse, il faut faire les économies d'énergie, et on produira moins quand on consommera moins. Et là, on prend un petit peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on veut couper les moyens de production, alors qu'on a encore besoin de l'énergie. Et le résultat, c'est qu'on va aller dans le mur, et on va se retrouver avec des grands blackouts.
parce que j'ai le sentiment qu'il y a même une sorte de volonté, et on le voit d'ailleurs avec la politique actuelle de la mairie de Paris en matière de circulation automobile, il y a une sorte de volonté de brimer les citoyens, de les contraindre à régresser, alors que la voie est sans issue, puisque...
Et pour faire ça, on casse des outils qui marchent, et ce qui est particulièrement stupide.
Et on casse en même temps des outils qui marchent.
Des outils qui marchent, qui ont coûté cher, qui sont déjà amortis, ou qu'on pourrait utiliser quasi gratuitement.
Oui. Alors voilà, je crois qu'il y a d'autres questions encore qui arrivent, d'auditeurs. Il y a effectivement un auditeur qui a raison, et que nous n'avons pas parlé de l'usine marémotrice de Garance. Oui, qu'est-ce que ça, je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait nous en parler un petit peu. Pascal, vous connaissez le fonctionnement de cette usine avec la...
Oui.
Est-ce qu'elle a été imitée à d'autres, est-ce qu'on en a fait d'autres, des usines
c'est
de ce type?
C'est la plus grosse au monde.
Et elle est efficace?
Ouais, oui, ça marche toujours. Je pense.
Bah voilà, une trentaine
d'années, elle marche toujours.
Voilà,
elle produit des quantités non négligeables, mais les ingénieurs d'EDF qui l'ont conçue disent que s'ils devraient le refaire aujourd'hui, ils le referaient pas forcément.
Oui.
C'est pas extrêmement rentable.
Stable, oui.
Et c'est un site, il faut préciser, qui est un site unique au monde par sa disposition géographique, avec un très grand estuaire qui remonte très loin, avec d'énormes volumes d'eau qui passent à très grande vitesse dans ce petit estuaire tout étroit, et où il est donc très facile de mettre des turbines. Donc c'est un site hyper favorable, et malgré ça, il n'est pas hyper rentable.
Est-ce qu'on pourrait le faire
et
dans les estuaires?
C'est un site unique en France et unique au monde. On peut le faire dans d'autres estuaires, mais ça sera moins rentable, ça produira moins.
On peut le faire dans tout le Mont-Saint-Michel. Hein. Je me souviens, c'est un Corpsar des mines qui avait fait un beau projet.
Il y a d'autres sites possibles. La Gironde, voilà. c'est très très large, c'est plus difficile. Hein.
Un autre auditeur nous dit qu'il y a 1 300 000 oiseaux qui sont assassinés chaque année en Espagne par les éoliennes. C'est un communiqué par la Ligue protectrice des oiseaux espagnols, en grande partie migrateurs. Oui, ces éoliennes, évidemment, sont des obstacles dangereux pour le vol des oiseaux migrateurs.
Et une pack d'éoliennes, ça va à une vitesse qui peut atteindre 300, 400, 500 km/h.
En
bout de pack, ça va extrêmement
vite. Là, oui.
Si vous calculez que le nombre de secondes qu'il faut pour faire le tour et que l'envergure de l'éolienne, c'est 100 mètres, vous arrivez à des vitesses qui sont en centaines de km/h.
Quand on va sur l'autoroute,
il faut attention de rester au bout de la pague, ça reste en dessous du mur du son, sinon ça casse les pagues.
Ah oui, parce que quand on les voit tourner,
ça peut s'approcher du mur du son.
Elles tournent toujours tout doucement, c'est quand on les voit
sur
l'autoroute.
Mais elles font 100 mètres d'envergure.
Voilà.
Et donc en bout de pague, vous avez des vitesses qui sont de 300, 400, 500, 600 km/h.
Ah oui,
et donc les oiseaux ne peuvent rien faire contre ça. Ils arrivent, ils croient qu'il y a rien, et ils se font happer par une pague géante qui fait plus d'un mètre d'envergure. Et qui les hache à 500 km/h.
Pascal Renardet,
je préfère un petit bémol à propos de la politique de l'énergie. Donc vous dites, on fait de l'hydraulique et du nucléaire. Bon, mais
efficace si on veut pas polluer.
Mais voilà, il y a un certain nombre de produits, par exemple le coke. On ne peut pas le faire autrement qu'avec du charbon.
Oui, ça vous avez raison.
Le kérosène, jusqu'à présent, pour les avions, on ne sait pas encore faire. On n'a pas d'autres carburants.
On a des carburants de synthèse. D'ailleurs, les Allemands l'avaient fait pendant la guerre, puisqu'ils avaient eu un blocus, ils n'avaient plus de pétrole, et ils fabriquaient leur propre kérosène à partir du charbon.
Et puis après, il y a toute la fabrication des plastiques à partir de la pétrochimie. Donc
on peut pas complètement supprimer.
On a besoin du pétrole justement pour l'industrie chimique et pour qu'elle soit durable et qu'elle dure longtemps, parce que les plastiques, on peut les recycler, mais pour alimenter l'industrie du plastique, on a besoin quand même du pétrole. Et donc, il faut réserver le pétrole, parce qu'il n'y a rien de plus idiot que de brûler. Rendez-vous compte que le pétrole, la nature a mis 100 millions d'années.
100 millions
pour fabriquer les stocks de pétrole dont on dispose aujourd'hui. 100 millions d'années. On est en train de le brûler en 50 ans.
Oui.
On a brûlé la moitié en 50 ans, et il reste la moitié encore à brûler. Voilà. Donc, c'est des ordres de grandeur. On prend du pétrole pas trop cher à un prix abordable.
Oui.
Voilà, c'est des ordres de grandeur. Donc, pour que ce soit soutenable, il faudrait 1 million de planètes. C'est pas une ou deux ou trois ou 10.
Ah,
on est très très loin du seuil de renouvelable.
Est-ce qu'on peut concevoir des carburants comme l'hydrogène, par exemple, pour faire marcher les moteurs à explosion?
Alors, on peut faire des moteurs à hydrogène, mais l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Il faut fabriquer cet hydrogène en brûlant une autre énergie. Donc, on retombe sur les mêmes, le pétrole, le gaz, le charbon. Aujourd'hui, presque tout l'hydrogène est fabriqué avec du gaz naturel.
Oui.
Et donc, c'est de nouveau, on émet du CO2, puisqu'on récupère l'hydrogène, mais il y a du CO2 qui vient du CH4, gaz naturel qui est émis dans l'atmosphère dans cette histoire.
Et il y a aussi la pile à combustible dont
on a
parlé.
La pile à combustible, c'est le moteur qui brûle l'énergie, mais c'est pas la source d'énergie.
C'est une sorte d'hydrolyse inversée.
La pile à combustible, elle fonctionne par exemple avec de l'hydrogène, mais c'est pas le carburant la pile à combustible, c'est le moteur.
Ah oui, voilà. Mais alors le carburant, c'est l'hydrogène.
Le carburant, ça peut être l'hydrogène, entre autres.
Donc il faut le fabriquer.
Il y a plusieurs types de piles à combustible possibles, mais il faut le fabriquer, c'est ça. C'est
donc
pas une source d'énergie en soi.
On bute toujours sur cette difficulté.
Il faut fabriquer, et donc les sources primaires d'énergie, on retombe toujours sur charbon, pétrole, gaz naturel, hydraulique, éolienne, solaire, nucléaire, et on tourne en rond toujours avec les mêmes.
Et ça. Et alors on a parlé aussi de l'énergie gravitationnelle, de choses, mais enfin bon. Moi, j'aimerais bien voir. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est l'hydraulique, au fond, l'énergie
gravitationnelle.
L'hydraulique,
c'est l'énergie gravitationnelle, tout à fait, dont on récupère un petit morceau.
Oui, voilà. Mm. Bah alors, si on arrivait à faire mieux, tant mieux. Mais enfin, bon, moi, j'aimerais bien voir.
Il suffit de faire tomber les montagnes.
Une petite parenthèse, c'est que l'énergie solaire, c'est de la radioactivité, en réalité.
Ouais.
Donc, quand on remonte à l'origine de toutes ces énergies, l'énergie hydraulique, c'est l'eau qui s'est évaporée dans l'atmosphère, qui est retombée. Ça s'est évaporé sous l'action du soleil, donc c'est aussi nucléaire à l'origine. Donc l'eau qui tombe dans les rivières, c'est à l'origine nucléaire. Le vent, eh bien, c'est aussi les phénomènes météo avec le soleil qui chauffe les masses d'air et qui crée des courants d'air, donc c'est aussi le nucléaire. Et de la géothermie, la chaleur qui vient du centre de la Terre, c'est aussi du nucléaire. Donc finalement, toutes les énergies sont nucléaires à l'origine.
À la base, les énergies sont nucléaires. Mais il y a un facteur, évidemment, qui est un facteur d'aggravation des problèmes, c'est l'importance de la population mondiale et son aspiration à se développer industriellement. Lorsque, je le disais au début de l'émission, nous étions 1 milliard sur Terre au début du XXe siècle, nous 7,5 milliards, c'est-à-dire qu'on a multiplié l'humanité par 7,5, ce qui est absolument considérable. Et on constate d'ailleurs, avec la guerre de 14, que l'humanité, avec 1 milliard d'individus, était déjà capable de faire beaucoup de bêtises. Et c'est même presque miraculeux que tout n'ait pas explosé au 20e et au 21e siècle, vous me direz que ça va peut-être venir avec la Corée du Nord, parce que quand on voit que l'on a multiplié par 7,5 l'humanité...
Non seulement on a multiplié l'humanité par 7,5, mais la quantité d'énergie consommée par personne a augmenté d'un facteur qui est de l'ordre de 50.
Alors vous me direz que tout le monde ne consomme pas autant que les Occidentaux. Il est bien que dans le Sahel, on consomme pas comme nous, ça c'est
très
sûr.
Très probablement, si on veut que tout homme vivant sur Terre vive aussi bien
ce que voudrait la gauche.
Ce n'est pas possible.
C'est malheureusement... C'est là que je vois quelque chose qui est quand même typique de l'idéologie de gauche. Et on voit que l'idéologie de gauche rejoint une certaine forme d'écologie, pas du tout la vôtre, mais une écologie fanatique. C'est que l'impossible, ils ne veulent pas le voir. C'est-à-dire que ça, c'est occulté immédiatement et c'est même interdit d'en parler. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pensée magique qui est à l'œuvre. C'est une pensée qui est pré-rationnelle. Et ce qui est très curieux, c'est de voir la résurgence en plein monde contemporain de la pensée magique, de la pensée irrationnelle. Un homme des Lumières aurait été scandalisé du comportement de certains de nos contemporains.
Absolument. C'est totalement illogique,
obscurantiste,
absolument anti-scientifique.
Et anti-scientifique.
Tout à fait. Tout à fait. Et il y a une dérive qui n'est pas bonne dans ce sens-là. Parce que quand on décide des politiques publiques, il faut quand même se baser sur des choses un peu rationnelles qui tiennent la route. On peut pas faire du rêve, ça va dans des discours politiques, mais quand on parle de politique énergétique, derrière, il y a des usines. Il y a des lampes qui doivent s'allumer. Il y a des voitures qui doivent avancer. Il y a des usines qui doivent tourner.
Oui.
Et ça se fait pas avec du vent et des discours. Ça se fait avec de l'énergie.
Et c'est là que l'on voit que la politique menée par certains despotes éclairés comme Napoléon III était finalement plus fructueuse que la politique émotionnelle menée par les démocraties occidentales, qui consiste à manipuler l'opinion publique sous la pression des médias et des lobbies, et qui est excessivement dangereuse. Parce que finalement, la haine du nucléaire, je l'ai vu se construire. Moi, je suis né en 1956, mais jusqu'en 1970, comme vous l'avez très bien dit...
Ça monte régulièrement depuis les années 70.
C'est mai 68 finalement. Surtout jusqu'en 1968, je me souviens qu'on était très fiers d'avoir de l'énergie atomique. C'était l'avenir, c'était ce qui allait sauver l'humanité, ce qui allait la sortir du sous-développement. Et c'est à partir de 1968, années 70, avec notamment le mouvement hippie et la guerre du Vietnam, qu'on a vu cette inversion des valeurs comme dans d'autres domaines, et une espèce de refus du progrès par des gens qui se veulent en même temps progressistes. Ce qui est un paradoxe très grand. En réalité, les progressistes sont des gens qui n'aiment pas le progrès, quelque part.
Mais tout dépend.
Ça dépend de la version.
Voilà,
de ce qu'on met derrière.
Voilà,
le mot
progressiste. Parce que est-ce que c'est certain. Est-ce que l'augmentation de la production intérieure brute de la France est le progrès suprême? Voilà, tout est là. Là, on revient à un problème politique.
Et au-delà, même presque philosophique, je dirais, parce que pour ma part, j'ai beaucoup réduit ma consommation d'énergie.
Oui.
Et j'en produis une grande partie en renouvelable. Donc, je suis pas complètement contre les renouvelables. Simplement, à l'échelle d'un pays comme la France ou d'un continent comme l'Europe, on peut pas tout faire avec du renouvelable. Il nous faut une énergie fiable, industriellement viable, à un prix économique acceptable que nos économies peuvent supporter. Et évidemment, c'est le nucléaire qui s'en sort beaucoup mieux.
Mais
à l'échelle individuelle, je pense qu'on peut faire beaucoup, chacun à son niveau, pour économiser l'énergie et pour faire un peu de renouvelable aussi.
Oui, aussi.
Moi, je suis en train de faire ma deuxième tranche d'équipement solaire en ce moment. Ma première tranche m'a coûté 15 000 euros en 2010, donc il y a 7 ans. Et aujourd'hui, j'installe 4,4 kilowatts, c'est-à-dire 50% de plus pour un prix 5 fois moindre. Donc ça a quand même beaucoup évolué. Simplement, évidemment, ce ne sont plus des panneaux fabriqués en France. Ceux-là, ils viennent de Chine.
Oui.
Donc c'est pas très bon pour l'économie française. Alors, mais les prix ont quand même, il faut reconnaître, beaucoup baissé dans le solaire. Par contre, c'est toujours intermittent. C'est-à-dire que c'est toujours inapte pour produire quoi que ce soit en hiver. On a donc toujours besoin du réseau en secours.
Oui.
Sauf que le réseau, si tout le monde faisait comme moi, eh bien le réseau ne tiendrait plus puisqu'il serait plus financé, plus personne ne paierait. Donc il faudrait multiplier par 20 ou 50 le prix de l'énergie qu'on achète en hiver, ce qu'évidemment personne ne pourrait supporter. Et c'est à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. Donc on voit bien que c'est des questions qui sont délicates, mais on peut néanmoins, à son niveau, contribuer à faire des économies et à augmenter son autonomie énergétique. Mais après, en tant que pays, il faut prendre des décisions qui sont rationnelles, qui consistent aussi à encourager les gens à faire des choses intelligentes. Je pense que la puissance publique doit plutôt encourager à cesser de fumer qu'à fumer, par exemple, et doit plutôt encourager les économies d'énergie que les gaspillages d'énergie, c'est bien évident. Et on peut donc, à son niveau individuel, prendre des décisions très utiles et même assez rapides pour soi-même. Voilà. Mais en tant que société, il nous faut de l'énergie pour faire tourner notre société, nos usines, nos véhicules, nos industries, notre économie, le chauffage des maisons, des bâtiments, etc.
Parce que
il nous faut une source d'énergie massivement disponible, comme le nucléaire, à un prix acceptable et qui bien sûr ne pollue pas l'environnement.
Pascal Renardet, au point de vue niveau individuel, il est très possible d'avoir de l'énergie, d'utiliser uniquement l'énergie solaire en se constituant une batterie de.
C'est pas possible. Parce que si c'était je l'aurais fait. Mais j'ai bien étudié la question. Malheureusement, c'est pas possible.
Il y a 20 ans, quand je suis allé en Argentine, je suis allé chez une personne qui avait ça. Ses panneaux solaires.
C'est pas pareil.
C'est pas de bonne qualité.
L'Argentine n'est pas la France. En Argentine, il fait bon, il n'y a pas besoin de chauffer les habitations. Ça dépend où est-ce qu'on habite.
Alors attendez, il y a deux questions.
Alors qu'en France, il faut chauffer en hiver. Et c'est pas avec les panneaux solaires que vous pourrez vous chauffer en hiver.
Il reste deux questions parce qu'on n'a plus que deux, trois minutes. Alors un auditeur m'a dit, on peut fabriquer facilement de l'hydrogène à partir de 1200 degrés par dissociation de l'eau.
Il faut de l'énergie. Pour monter l'eau à 1200 degrés, il faut de l'énergie.
Et un autre auditeur nous dit, pouvez-vous nous parler du pantone? Alors, je sais pas ce que c'est que le pantone.
Le moteur pantone.
Qu'est-ce que c'est que ce moteur pantone?
C'est comme l'énergie libre. Ça fait partie des nombreuses histoires qui circulent sur Internet. Où vous avez une énergie magique et merveilleuse. Il suffit de construire un moteur d'un nouveau type, inventé par un inventeur génial, qui bien sûr est persécuté par le gouvernement.
Qui a été assassiné.
Et donc, le moteur Pantone fait partie de cette série-là. Donc, si ça marche, c'est merveilleux, mais j'en ai jamais vu un qui marche.
Moi, j'ai vu les Rolls Phantom 5, parce qu'on a même le catalogue ici, mais j'ai pas vu la Pantone 5. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de mythes. Et le moteur à eau, est-ce qu'il a fonctionné, le moteur à eau?
C'est pareil, le moteur à eau fait partie de la même grande famille qui se régénère sans cesse. Il n'y a pas plus renouvelable que les mythes.
Oui, parce que
sans cesse et qui s'enrichissent en permanence.
À propos de moteur à eau, disons, je parle d'une expérience personnelle. Quand vous arrivez dans une nappe de brouillard, votre moteur marche mieux.
Oui, ah oui, parce qu'il y a un peu d'eau dedans.
Voilà.
C'est-à-dire c'est ce que on peut enrichir. Voilà.
Donc je
on
me suis améliorer dit, j'ai un moteur à eau. J'ai
non, mais il y a des gens qui vendent des kits comme ça, voilà, qui consistent à injecter un peu de vapeur d'eau dans votre essence et qui améliorent le rendement du moteur.
Voilà.
Et alors, il paraîtrait qu'on pourrait gagner entre 10-20%.
C'est très amusant.
Ça, c'est en économie carbone.
Il suffit d'avoir un petit arrosoir et puis vous vaporisez là devant votre filtre à air.
Ça reste un moteur à essence, mais qui consomme un petit peu moins.
Un peu d'eau, mais
un peu plus d'eau et un peu moins d'essence.
L'eau, on n'en fait rien.
Mais si on met 10 fois plus d'eau et 10 fois moins d'essence, ça marche plus.
Ça ne marche plus. Mais bon, on a inventé le moteur à eau quand même.
Mais voilà. Mes parents, qui étaient nés au début du 20e siècle, avaient toujours observé, c'était un mystère, que les voitures fonctionnaient mieux à la tombée de la nuit, parce que la carburation se faisait mieux, et c'était surtout vrai avec les vieilles voitures, moins maintenant.
Parce que les carburateurs, tout ça.
Mais alors effectivement, c'est sans doute l'humidité plus importante qui stimulait la carburation. Exactement. J'ai donc enfin l'explication de ce phénomène. Vous voyez,
moi je vous dis, je m'en suis aperçu quand on passer dans une nappe de brouillard. Donc là, il y a de l'humidité, on est sûr.
Oui, c'est sûr. Hein? Bah, écoutez, merci. Voilà. Bon, écoutez, maintenant, on le saura, et quand on fera de l'avion, on ira dans les nuages pour consommer moins.
C'est pas le même moteur à explosion. Hein.
Voilà. Bien, écoutez, chers auditeurs, merci de votre attention.